Radio Courtoisie.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris, sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 27 septembre 2006 de 18 à 21h, en différé jeudi 28 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à contact@radiocourtoisie.com.
Amis de la résistance, bonsoir. Ça va-t-il ?
Mais bien sûr qu'on résiste.
Tout le monde à la pêche ?
Tout le monde à la pêche ?
Moi, je suis vraiment en pétard. Alors, il ne faut pas me chercher des... pas me chercher des poules dans la tête, hein, parce que vous allez me trouver. Hein.
Ils vous ont vendu des petits pois qu'ils ne voulaient pas cuire ?
Ouais. Bien, autour de cette table, alors, dans quel ordre je dis ? Victoria ? Bonjour, Victoria.
Elle est là, bonjour, Serge.
Le Goffman, bonjour le Goffman.
Présent, est-ce que je peux...
T'as l'air de mauvais poil aussi.
Je suis très content, simplement il faut que j'attende jusqu'à la séance de 10 heures pour voir Indigène, alors vous pensez bien que je suis frustré. Je voudrais demander à nos auditeurs de passer deux coups de fil.
Indigène
de...
ou Indine ce soir?
Je sais pas.
Non, Indigène demain matin, alors.
S'il vous plaît. Est-ce que je peux demander à nos auditeurs de passer rapidement, tout de suite, deux coups de téléphone de 10 secondes? Le premier pour signaler à un ami que nous sommes rentrés, sur quelle fréquence il peut nous écouter dans sa ville. Et le second, un autre ami ou un parent à l'étranger ou en province, pour lui signaler qu'on est audible sur Radio Courtoisie. En un seul mot, radiocourtoisie.com. Deux coups de fil de 10 secondes. Voilà, vous leur dites ça et vous raccrochez en disant maintenant je reprends l'écoute de Serge de Bekech qui est de retour.
Alors
et
je vais même dire autre chose. Pardon.
On élargit le cercle de nos amis.
Qui ont, disons, la chance de m'entendre tousser. Ça, c'est un beau cadeau.
C'est moi qui fume et c'est le patron qui tousse.
Ouais. À propos de Radio Courtoisie, c'est ça, c'est Radio Courtoisie, Franck, hein, radiocourtoisie.com. Oui, j'ai du mal à m'y faire, je suis. Pourtant, c'est simple, mais voilà. Je signale, j'ai réussi un exploit extraordinaire, dont je suis pas un peu fier, parce que Malia m'avait dit, on peut maintenant cotiser à la radio par l'intermédiaire d'Internet. Eh ouais. Alors j'ai eu son blague, il m'a dit, oui, non, c'est vrai. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait radiocourtoisie.com. Et puis on peut, ça marche. Car on appuie sur un truc, sur un bouton, et on... Et alors c'est très très simple. On va sur un site qui s'appelle, je crois, PayPal.
Oui, oui.
PAYPAL. Oui.
C'est une bonne nouvelle que vous donnez là, parce qu'il y a des auditeurs qui savent sûrement que quand on a mis ça en place il y a 15 jours, c'est Malia hein, qui nous a expliqué ça, ça a tellement bien marché que le système a explosé et qu'il a fallu nous mettre sur un autre compartiment.
C'est pas notre compte en banque qui a explosé.
CF, ça marche.
Voilà. Qui puisse abriter le trafic d'argent.
Parce que souvent, on se dit, je vais faire un chèque, mais le temps, le mettre dans la boîte, timbrer, aller jusqu'à la poste et tout, enfin, dans l'enveloppe, timbrer, aller jusqu'à la poste ou à la boîte, c'est fatigant. Tandis que là, ça se fait si vous avez un ordinateur, bien sûr. Si vous n'avez pas d'ordinateur, vous prenez votre massue, vous sortez de votre grotte et vous allez l'échanger, échanger votre massue contre un ordinateur.
60% des Français sont internautes maintenant, alors je pense que c'est au moins 80% des auditeurs de Radio Courtoisie qui sont toujours en avance.
Donc faites ça, vous envoyez 40 euros. Alors ça marche bien, c'est vraiment, c'est un vrai plaisir d'envoyer.
Vous n'avez jamais rien payé par Internet?
Jean-Pierre Rondeau.
Non, vous rigolez. Alors les autres invités, justement Jean-Pierre Rondeau, qui nous fait maintenant l'honneur, le cadeau, le plaisir de venir nous donner des conseils. Je dois vous féliciter, Jean-Pierre, de la part d'Émilienne. Qui, la semaine dernière, avait rendez-vous, je crois, jeudi, avec quelqu'un qui voulait lui faire faire des choses sur le plan...
financier, bien sûr.
Financier, bien sûr. Dont vous avez dit qu'il fallait pas.
Oui.
Alors, j'ai changé le plan machin contre le plan truc. C'est-à-dire que moi, comme j'ai pas beaucoup de...
Alors, Jean-Pierre Rondeau préconise de conserver son assurance vie, c'est bien ça.
Ah oui, oui.
Oui, mais sous une forme...
Et puis selon l'âge et selon les intérêts, c'est de pas obligatoirement transformer un contrat monosupport en multisupport.
Voilà, c'est ça.
Alors, contrat multisupport est très bien, mais quand on a un vieux contrat monosupport et qu'on est assez âgé, qu'on veut pas prendre de...
Alors, voilà. Donc cette dame qui est une amie est allée voir, elle s'est rendue à l'invitation de son personne qui l'avait demandé, qui lui a dit, il faut absolument changer votre contrat monosupport contre un contrat pour un contrat multisupport qui est beaucoup plus intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a dit non. Mais pourquoi? Ben non. Mais pourquoi? Ben parce que je veux pas. Mais écoutez, c'est plus intéressant. Oui, oui, bon, c'est très bien, vous avez sans doute raison, mais non. Elle lui a pas dit, parce que Jean-Pierre Rondeau m'a dit de pas le faire, mais enfin... Et après, elle m'a dit, merci, il est très bien tombé, c'était parfait, j'étais très contente, je savais enfin quoi faire.
Enfin, Emilienne a raison, il faut le dire aux autres auditeurs, parce qu'elle a compris que Jean-Pierre Rondeau est conseiller en gestion du patrimoine de son métier, qu'on peut donc... Et conseiller indépendant, on peut donc l'écouter. Contrairement au banquier d'Emilienne, il va pas toucher une commission sur le chamboulement de l'épargne de cette...
Si, je peux toucher, si je le fais moi-même, je peux toucher une commission. Oui. Je vis quand même de conseil.
C'est autre chose, bien sûr.
Mais là,
le conseil à la radio,
je le donne gratuit. Beaucoup que je reçois. Voilà.
Et puisqu'on en est au message personnel, je voudrais signaler à ma petite femme chérie que on va installer le système PrePal pour s'abonner au journal. Pauvre, ça y est évanouie.
C'est vrai?
Ah bah, il n'y a pas de raison, c'est tellement simple. Ah,
Daniel, on va empêcher ça, nous deux. C'est trop affreux.
Puisqu'on peut cotiser à la radio, on doit pouvoir s'abonner au libre journal par PrePal. Alors, je vais mettre ça en place. Je ne sais pas encore comment, mais je sais que je vais le faire. Merci, Malia, de m'avoir donné ces bons conseils. Voilà ce que je voulais dire. Alors, maintenant, je n'ai pas présenté le dernier. Enfin, l'invité de ce soir, qui est Christian Pérez, qui est le... Alors, je ne sais pas si vous êtes président, Christian Pérez, vous êtes président du Parti Populiste, voilà. Parce que j'ai décidé, de mon plein gré, de recevoir les personnalités, les acteurs de l'Union des Patriotes à venir. J'avais invité Jean-Marie Le Pen, mais comme il était invité également par... Henri de Lesquin, il a eu la délicatesse de me dire que deux fois dans la semaine, c'était peut-être un peu overdose pour les auditeurs, ce qui est sûrement pas vrai, mais enfin... donc ça sera pour plus tard. Je recevrai début octobre Bruno Gollnisch. Et la semaine dernière, j'ai reçu, donc j'ai dit Bruno Maigret, là je reçois Christian Pérez, puis je recevrai certainement d'autres personnes qui seront intéressées et qui voudront s'exprimer sur cette proposition d'Union des Patriotes pour le premier tour de la présidentielle, et naturellement pour le deuxième, puisque il est très probable que notre
pour le troisième,
bien-aimé
pour...
président du mouvement deviendra un jour président de la France, parce que, à propos de Ségolène, un auditeur m'a envoyé un article que le général de brigade du cadre de...
C'est moi qui l'ai envoyé, je vous signale.
Ah, c'est vous, une balance. C'est formidable, ce texte. Le général de brigade Pierre Royal a fait paraître dans son bulletin de promotion en mai 92. Alors, je vais vous le lire, parce que donc c'est le tonton de Ségolène.
Le père de cette dame royale qui est candidate FN à Bordeaux.
Je ne sais pas si c'est lui, parce que je pense que les royaux, ils ont beaucoup d'enfants royaux. Donc,
oui, il y a une...
Elle est très belle.
Je sais qu'il y en a une qui est candidate à Bordeaux.
J'ai vu sa photo, elle est magnifique.
Elle est belle, hein.
Elle a 8 enfants qu'elle élève seule. Ouais. Et elle est troisième de liste seulement du FN, parce que deuxième de liste, c'était trop prenant. Elle est très impressionnante,
ouais,
cette dame.
Très belle dame, oui. Alors voilà ce qu'écrivait ce général de brigade, Pierre Royal. Suite aux nombreuses questions qui me sont posées quotidiennement concernant, ouais, ça doit pas être rigolo, hein, concernant mes liens de parenté avec Ségolène Royal, le nouveau ministre de l'Environnement, puisque c'était en 92, je tiens à effectuer la mise au point suivante. Ségolène Royal est ma nièce, fille de mon frère aîné Jacques, qui a terminé sa carrière militaire avec le grade de lieutenant-colonel dans l'artillerie de marine. L'artillerie de marine.
Tout le monde le croyait gendarme.
Oh ben non, voilà, là c'est de la bouche du cheval, si j'ose dire.
En effet. Oui.
Si je ne partage en aucune façon ces options politiques, l'esprit démocratique me contraint à les supporter. Par contre, je ne puis admettre que pour construire sa carrière politique, elle ait sali de façon outrageante la mémoire de son père. Et toc. Lors de la sortie de son livre « Le printemps des grands-parents », titre très cocasse quand on saura qu'elle a été particulièrement odieuse avec mes parents, ses grands-parents, elle a accordé un certain nombre d'interviews d'où il ressortait qu'elle avait eu une enfance très dure du fait de son père, militaire rigide et borné, qui la brimait. Par contre, au moment de la guerre du Golfe, dans une interview du journal La Nouvelle République du Centre, elle disait son soutien aux soldats français, évoquant avec émotion le souvenir du départ de son père pour l'Algérie et sa mort au combat. En réalité, mon frère est mort d'un cancer en 1981.
Oh là là.
Autre article récent dans le Courrier de l'Ouest du 2 mars 92, je cite, deux points, ouvrez les guillemets, « On sait moins que son père était militaire et que, petite fille à la maison, il lui fallait faire contrainte et forcer sa prière quotidienne, point,
oh,
fermer les guillemets. »
Oh la peau.
C'est dur, hein.
C'est Cosette, quoi. Oh. Elle cause.
En conséquence, je n'ai aucune relation avec cette jeune femme résolument mythomane et j'ai honte de voir le nom de ma famille ainsi galvaudé. Point final.
Bon, alors, si j'ai bien compris, si vous voulez voter Royal, c'est à Bordeaux et nulle part ailleurs.
Oui, c'est ça, voilà. L'avantage, c'est que les Bordeaux pourront voter Royal sans emmerder personne. Au contraire. Maintenant, puisqu'on en est au drame, je vais continuer sur un autre drame. Si vous voulez dire quelque chose, vous m'arrêtez, hein. Vous connaissez la règle. Ça, c'est une véritable tragédie. Alors, je blague pas, hein. Je ne blague pas. Vous savez que les parlementaires ont un certain nombre de billets gratuits pour voyager sur les chemins de fer.
Vous plaisantez, ils ont la gratuité totale.
Ah bon, d'accord. Bah, vous en savez plus que moi. Moi, j'ai jamais été parlementaire.
Les généraux ont le quart de place.
Alors, voilà, récemment, il y a eu un véritable drame, quoi, qui s'est passé. Je vous lis le texte. Tout parlementaire, et non pas tout condamné.
Oh là là, tranché.
Tout parlementaire en activité peut se voir accorder une carte de type forfait France entière première classe ou une carte de type fréquence France entière première classe. Le champ d'application de ces cartes est le suivant, nous dit la direction VFE SNCF. Je VFE, je ne sais pas ce que c'est, mais ça fait rien. Voyage des Français, je ne sais pas quoi. Enfin bref. Dans tous les trains exploités par la SNCF qui assurent les services nationaux ou régionaux de transport de voyageurs sur le réseau ferré national, dans les trains exploités par la SNCF qui assurent les services internationaux uniquement pour les parcours effectués entre deux gares françaises, par dérogation alinéa ci-dessus, dans les trains Thalys sur le parcours Paris-Bruxelles uniquement, ainsi que sur les TGV Paris-Genève. Je voudrais bien savoir d'ailleurs pourquoi Genève, hein, pourquoi?
Pour les mallettes, pour les mallettes.
La situation tarifaire sur Paris-Luxembourg jusqu'au 24 juin 2006. Les prix appliqués sur Paris-Luxembourg résultaient de l'addition d'une tarification purement SNCF sans réservation obligatoire jusqu'au point frontière de Bettembourg, d'une tarification luxembourgeoise au-delà aboutissant à un prix très modique compte tenu de la faible distance. Autrement dit, ils payaient qu'à partir de la frontière. Et jusqu'à la capitale du Luxembourg.
En résumé, on leur doit combien à chaque fois qu'ils prennent notre train?
Attendez, vous allez voir. Qui est où là, qu'est-ce que c'est la capitale du Luxembourg?
Luxembourg, chef.
Luxembourg. C'est bien, je ne serai pas envoyé ce soir. Depuis le 25 juin 2006, avec la mise en place de 4A et aller-retour TGV sur ligne classique entre Paris, Metz, Luxembourg, concomitamment...
Vous soyez poli.
Ah ben non, mais c'est le VFE, c'est concomitamment, une gamme internationale à prix de marché par type de passager, grand, petit, maigre, pied plat, a été mise en place sur Paris-Luxembourg par la direction TGV. Cette offre est totalement intégrée à TGV France, sans aucun partage de recettes avec les chemins de fer luxembourgeois. C'est-à-dire qu'on ne paye pas du tout le Luxembourg pour laisser passer les trains français. Les conséquences pour les parlementaires. Les parlementaires qui voyageaient sur Paris-Luxembourg avec pour seule contrainte l'acquisition d'un titre à prix modique entre Bettembourg et Luxembourg sont désormais obligés d'acheter un titre pour la totalité du parcours qu'ils empruntent, s'ils empruntent un TGV. Le PC Gare, le poste de commandement, Gare, je suppose, c'est pas le Parti communiste, hein, et le PC Assistance ont été appelés par des vendeurs qui ont signalé des différends avec les parlementaires. Ces PC ont répercuté ces informations à la direction TGV. Voilà. Et oui, les gars, ces pauvres parlementaires qui payaient pas, d'un seul coup, on leur dit, comme n'importe quel compte français, il va falloir que tu payes, camarade. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais comment? Mais il n'en est absolument pas question. Vous croyez qu'on va se contenter de 50 000 balles par mois, plus 50 000 balles d'indemnités diverses, tout ça imposé sur les 11/20e? Mais pas du tout, on veut voyager gratuitement dans le train. Et alors, l'article 8 de la Convention en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 étant précisé que les parties doivent se rencontrer 6 mois avant ce terme pour discuter de la suite, comporte une clause, alors là écoutez, ça c'est trop joli, non pas une clause de révision, parce que révision, maintenant le mot est interdit, comme chacun sait, donc comporte une clause de revoyure. Hein. Ouais. Est-ce que vous avez prévu une clause de revoyure? Ben bien sûr, ben à revoyure, à la bonne de revoyure alors, qui prévoit qu'en cas de changement pendant la durée de la convention d'un ou plusieurs éléments ayant pour conséquence de bouleverser son économie, les parties conviennent de se rencontrer afin d'étudier les modifications qui, le cas échéant, seraient utiles. Faire un avenant n'est pas un problème, sauf avec un contrôleur des chemins de fer. Hein. Si vous voulez faire un avenant avec un contrôleur des chemins de fer, c'est difficile. Mais s'agit-il d'un simple ajout de l'autorisation d'emprunter ces trains, ou la direction TGV voudra-t-elle une contribution supplémentaire? Tout va dépendre des évaluations de la direction TGV et de sa position. Si la première solution est adoptée, il serait peut-être possible, à moins d'un an de la renégociation et compte tenu de la brièveté de l'ajout, il serait possible à effectuer à l'article 31,
naturellement,
à la revoyure, champ d'application des conditions tarifaires, d'agir par échange de courrier recommandé avec AR sous réserve de l'accord de la direction TGV, blablabla. Sinon, alors là, il faudra tout changer. En tout état de cause, les assemblées sont, me semble-t-il, dit monsieur VFETGV, en vacances jusqu'à fin août. D'ici là, les utilisations des cartes par les parlementaires devraient être des utilisations privées loisirs, et l'avenant où les simples échanges de lettres recommandées devraient pouvoir atteindre la rentrée. Alors, attendre la rentrée. Alors, je résume. Ces pauvres parlementaires se sont plaints à la direction VFETGV en disant, on ne peut pas payer. Oh, papa, grosse misère, difficulté à vivre, papa, prison, bébé malade.
Grand-mère enceinte.
Marie paralysée, femme enceinte. Et alors, donc, immédiatement, la direction VFETGV se mobilise en disant, incroyable, les parlements, on voudrait faire payer les parlementaires, c'est pas possible. Voilà. C'est pour ça que vous votez, mesdames et messieurs.
La SNCF vient de perdre Louis Gallois et de récupérer Madame Hydrac comme PDG, mais la constante d'un PDG à l'autre, c'est qu'elle est toujours en déficit, que nous compensons avec nos impôts, alors que techniquement, les trains français sont les meilleurs du monde et s'exportent partout.
Je vais vous en raconter une autre, tiens, à propos de... parce que celle-là, elle vaut mille aussi. Récemment, il y a 3-4 jours, il y a eu le 20e anniversaire du TGV.
Oui.
Ils ont fait un raout phénoménal. Mais phénoménal, avec 2000 bouteilles de champagne qui se sont goinfrées joyeusement en invitant toute la racaille jet set, etc.
Ils ont accompli une vieille prophétie du dessinateur Conk, qui à l'époque où on parlait de faire routage, c'est-à-dire de mettre les camions sur le train, a prédit par le moyen d'un dessin le route-ferrage, c'est-à-dire le transport de train sur des camions. Ça s'est fait pour transporter une motrice de TGV, on l'a mise sur un camion, on a bloqué la circulation dans tout Paris, voilà, c'est le route-ferrage, bravo Conk.
C'est peut-être ça la solution, c'est peut-être le train auto route-ferrage, c'est-à-dire on met les voitures sur un train, on met le train sur un camion et puis le camion sur un bateau. On est trouvé comme ça
évite les bouclés.
Et alors donc je vous disais 2000 bouteilles de champagne. Le traiteur, il a livré les 2000 bouteilles de champagne. Il dit, c'est pas celui-là qu'on veut.
Oh.
Non, c'est pas celui-là qu'on veut. Mais pourquoi? Mais parce qu'on en a vu un avec une étiquette rose. L'étiquette rose, c'est exactement la couleur que de la publicité TGV. Alors il faut que l'étiquette rose soit de la couleur du TGV. Donc le gars, il a remporté ses 2000 boutons et il a remplacé par 2000 bouteilles à étiquette rose.
Vous avez pris le ton voulu, Serge Devecquèche. Rappelez-vous cette publicité du TGV qu'on a passée dans le Libre Journal et qui représentait un travelot.
Je sais pas ce que c'est. Je sais
bon,
pas de quoi vous parlez.
Vous êtes trop jeune pour savoir.
Non, je ne sais absolument pas de quoi vous parlez. Une étiquette rose, donc voilà. Mais heureusement, tout ne va pas mal dans l'administration ou les services parallèles, parce que j'ai par exemple une lettre de la Poste. Ils envoient des lettres, la Poste, au... qu'est-ce qu'il y a? Ah non, je sais pas, j'ai pas vu l'enveloppe.
Non.
Madame, monsieur, alors d'abord ça commence par une information. L'adresse est le lien privilégié qui permet une lettre ou un colis d'aller de l'émetteur au destinataire. Je vous jure, j'invente rien. Hein. Pour permettre une distribution... Deuxième information. Pour permettre une distribution optimale, l'adresse doit être exacte.
On ne peut rien dire la contre.
Voilà. Alors, donc... On fonctionne quoi? Tout courrier mal ou insuffisamment adressé sera retourné à l'expéditeur à compter du lundi 2 octobre.
À condition qu'il ait bien mis son adresse.
À condition qu'il ait mis la contre-adresse, bien sûr. Ah, et qu'il l'ait mis proprement. Alors, moi, je me souviens d'une époque où, au moment de la distribution, quand on répartissait le courrier qui arrivait dans un bureau de poste, c'était réparti par quartier, enfin par secteur. Chaque facteur avait son secteur. Hein. Et quand les gars mettaient le courrier, répartissaient le courrier par secteur, quand il y avait un doute, une adresse mal, ils mettaient ça de côté. Et quand les facteurs venaient chercher les sacs, il y avait une réunion, et on disait, bon alors là, on a une enveloppe mouche à bœuf, 2 rue de la Poupée qui, mais on n'arrive pas bien à lire, qui... Alors, il y avait un facteur qui disait mouche à bœuf, c'est mon secteur. L'andouillé, c'est chez moi, etc. Maintenant, c'est plus possible. Ils le font plus. Ils renvoient directement la lettre à l'envoyeur. Pourquoi?
Parce que le tri se fait à la machine maintenant, Serge.
Mais il y a une autre raison. C'est que il n'y a plus pratiquement de facteurs assermentés comme il y avait dans le temps. Et j'étais allé un jour voir la receveuse des postes de mon quartier, bon, parce que le service était vraiment lamentable, et elle m'avait dit, mais qu'est-ce que vous voulez, on fait des CDD d'une journée,
durée déterminée.
Donc on a des gens qui viennent distribuer le courrier, on sait absolument, on sait leur nom, leur adresse, parce qu'on va leur envoyer un chèque, on vérifie même pas s'ils savent lire et écrire, bien évidemment ils sont pas assermentés, et ils connaissent absolument rien au boulot, donc ce qu'ils font, c'est que quand ils arrivent par exemple dans un quartier, enfin dans un immeuble où il y a une boîte collective, ils s'emmerdent pas, ils mettent le paquet de lettres dans une des boîtes, et puis c'est le gars qui a gagné qui doit s'occuper de distribuer dans les autres enveloppes. Et je lui dis, mais il faut protester, enfin vous pouvez pas laisser faire ça. Elle me dit, mais monsieur, si je fais une remarque, j'ai une grève d'une journée sur les reins, je peux pas me le permettre.
Ouais. J'ai une anecdote complémentaire, c'est ce qui va vous permettre de reprendre haleine 30 secondes. J'ai été amené à écrire, pour des raisons professionnelles graves et urgentes, rue Saint-Maur, dans le 11e. Alors, quiconque connaît le 11e de près ou de loin, sait que c'est les Champs-Élysées, c'est la rue de Vaugirard, c'est la plus grande rue du 11e. Elle m'est revenue 3 fois, avec un tampon sur l'enveloppe, voie inconnue. Naturellement, j'ai encadré ça, c'est magnifique. Alors, j'ai fait comme Serge, parce que je suis à peu près aussi naïf, je suis allé me plaindre, et on m'a répondu, qu'est-ce que vous voulez, mon pauvre monsieur, si on n'embauche que des analphabètes, 3 points de suspension.
Voilà. Voilà, cela dit, il reste encore des facteurs. Dieu merci, le mien, quand il est là, il est très très bien.
Et nous les saluons. Et
je le salue bassement. Et puis maintenant, on va parler. On va parler du film que tout le monde cause de, Indigène.
Et qui est paru, qui est sur les écrans depuis aujourd'hui. Donc il faut que nous l'aidions.
Alors j'ai entendu hier une interview d'un des acteurs, je ne sais pas lequel c'est, je ne sais pas si c'était Roche Dizem, Samy Nasseri, c'était pas Jamel Debbouze ou Samy Bouajila, mais un qui a dit, mes grands-parents ont libéré la France. Putain, je croyais que c'était plus nombreux que ça quand même. Ses grands-parents ont libéré la France. Mais, alors voilà. Ce film raconte, ça c'est le texte du dossier de presse, comment Saïd, Yassir, Messaoud et Abdelkader se sont engagés en 1943 comme 130 000 autres indigènes dans l'armée française pour libérer la mère patrie de l'ennemi nazi. Ces héros que l'histoire a oubliés vaincront en Italie, en Provence et dans les Vosges, avant de se retrouver seuls à défendre un village alsacien contre un bataillon allemand.
Oh pardon.
Pourquoi vous rigolez? Vous
avez pas nerveux, fait... Serge. Pas c'est fait... le remords d'avoir oublié ces héros.
Ne riez pas, justement. Alors, on ajoute que ni didactique, ni manichéen, ça plus de français que Madame VFE, TGV, hein, de la vie générale, c'est-à-dire comme personne n'avait vu le film, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais enfin bref. Ce long métrage rend à sa façon hommage aux combattants d'Afrique qui ont participé à la libération de la France et affirmé l'identité française des enfants de l'immigration. Alors ça, c'est déjà une pure et simple arnaque, parce que sur les 130 000, on nous explique donc que sur les 130 000 engagés volontaires, il y en a je ne sais plus combien qui sont morts, mais beaucoup. Et donc, il en est revenu à peu près la moitié. Un peu moins de la moitié, je crois. Hein, c'est ça, Jean-Pierre? Vous avez envie de voir les chiffres?
Les chiffres sont faux, mais enfin, c'est vraiment un film manichéen, parce que voilà. Si vous écoutez tous les interviews de jeunes de beurre de banlieue qui sont interrogés depuis ce matin sur France Info, vous verrez qu'ils ont tous compris qu'on avait abusé de leurs grands-parents, qu'on les avait détestés, etc. Donc, on s'en servait de chair à canon. Voilà.
Alors, il s'agirait maintenant de passer à la caisse, comme Monsieur Chirac l'annonce aujourd'hui même. Donc un film,
je vais y venir, mais
une subvention. Mais revenons.
Mais je voudrais quand même souligner que ce qui nous explique, c'est que les enfants de l'immigration sont les petits-fils ou les arrière-petits-fils de ces héros qui ont libéré la France
tout seul.
Bon, moi je veux bien, mais apparemment cette guerre-là ne les a pas rendus stériles, hein, parce que ils étaient, s'il y en a 70 000 qui sont rentrés et qu'ils ont fait à peu près aujourd'hui 3 à 4 millions de petits-enfants.
Je compte les ordres des pertes, et d'ailleurs qui ne concernent pas que les Maghrébins, mais aussi les Africains, mais surtout la moitié de l'armée était composée de pieds noirs.
Exactement, moi j'allais le dire.
Je crois que le chiffre doit être de 10%.
Alors, en tout cas... on essaye de nous...
Toute campagne confondue, depuis la Sicile, etc., jusqu'à Berchtesgaden.
Dans cette histoire, on essaye de nous faire avaler l'idée que tous les jeunes beurs de France descendraient des héros de l'armée de libération. C'est quand même se foutre un peu de la gueule du monde. C'est pas vrai, déjà. Deuxièmement, ce film ne dit pas un seul mot, mais pas un seul mot, des 110 000 engagés volontaires européens qui appartenaient à 28 classes différentes. Faut pas oublier ça. C'est un cas unique dans l'histoire, des guerres françaises. 28 classes différentes.
Même en 14-18.
Hein, même en 14-18, c'est pas allé aussi loin.
De 18 à 35 ans.
Qui, eux, se sont engagés volontairement et pas parce
qu'ils... Et 80 000 femmes dans l'armée. Voilà. 80 000 pieds noirs.
Alors, tout ça est... Bon, déjà, ça relève de l'arnaque. Mais moi, ce que j'attends avec impatience, c'est qu'on nous fasse un film sur l'autre aspect de l'engagement des Algériens dans cette guerre en 39-40. Et alors, faute d'un film, pour l'instant, on doit se contenter d'un livre qui s'appelle Le faisceau, la croix gammée et le croissant, de Stefano Fabei, qui est publié aux éditions Acribeia. Les éditions Acribeia, c'est 4593, route de Vourles, V-O-U-R-L-E-S, 69230, Saint-Genis-Laval. Alors, dans ce livre, il y a un chapitre intitulé « Les Arabes de France sous les drapeaux du Reich », qui corrige légèrement la légende spinalienne de... que nous assène le film. Alors évidemment, un livre ne peut pas lutter contre un film, c'est évident sur le plan, surtout dans un pays où on ne sait plus lire, mais j'en parle quand même parce que je sais que les auditeurs de Radio Courtoisie, eux, savent lire. Donc il faut savoir que parmi les premiers activistes de l'indépendance, de l'Algérie, on relève les noms de Amara Taleb, Hamza Ahmed Fita, Lakhdar Mekidesh, fondateur du CARNA, Comité d'Action Révolutionnaire Nord-Africain, qui furent formés en Allemagne lors de cours de maniement d'armes et de sabotage par les services de la Gestapo. On trouve également un Marc Kider qui travaillait pour la section 2 de l'Abwehrstelle, où il était chargé du travail de désorganisation morale. On trouve Fodil Silarabi, célèbre pour son habitude de truffer ses discours politiques de citations du Coran et qui travaillait sous les ordres directs du colonel SS Hermann Bickler. On rencontre également un personnage beaucoup plus connu qui s'appelait El Mahdi, qui publiait dans un journal indépendantiste payé par le Reich les envolées d'un lyrisme tout oriental à la gloire des soldats d'Hitler. Au pied des minarets détruits, l'islam prie avec angoisse pour les jeunes soldats allemands qui baignèrent de leur sang vertueux la vieille terre libyenne. C'est ce poète délicat qui s'associe avec le tortionnaire de la rue Lauriston Lafont pour recruter les macros et les voyous de la Goutte d'Or et former, sous le sobriquet de SS Mohamed, la brigade nord-africaine au service d'Helmut Knochen, chef de la Gestapo et du Sicherheitsdienst en France. Ces Arabes collabos étaient loin de faire l'exception. Fabi dénombre par exemple 18 000 volontaires maghrébins travaillant dans les usines d'armement pour le compte de l'organisation Todt. Vous connaissez la célèbre histoire de l'organisation Todt, bien entendu. Todt in Deutschland, Todt in Hollande. Voilà, bon. Qui est raconté par Jean Dutour dans son merveilleux livre, Le Bon Beurre. Il évoque les Iwis, H-I-W-I-S, auxiliaires volontaires dans les unités allemandes stationnées en France. Le même livre indique qu'à l'époque, le mensuel de l'alliance islamo-nazie Ar-Rachid était vendu à 80 000 exemplaires et que son succès fut tel que ses éditeurs et financiers en firent un hebdomadaire en janvier 44. Dans les pages de ce journal algérien, on lisait par exemple « Nos sympathies vont à l'Allemagne nationale socialiste, nous faisons des vœux pour la victoire de l'Allemagne nationale socialiste et nous sommes prêts à l'aider par tous les moyens qui sont les nôtres, y compris le recours aux armes. » Ça, c'est du 10 octobre 43. Les maghrébins manifestaient une telle proportion à collaborer avec les Allemands que les autorités de Vichy finirent par s'en inquiéter et ordonnèrent à la police d'interdire aux Nord-Africains l'accès des consulats allemands d'Alger et de Casablanca devant lesquels des centaines d'Arabes stationnaient pour obtenir des contrats de travail leur permettant de gagner l'Allemagne. Cette décision provoqua en juin 1942 un incident diplomatique entre les Allemands et le gouvernement de Vichy. Avec ses héros, la cause de l'indépendance appuyée sur le régime national-socialiste a eu ses martyrs. Parmi eux, Mohamed Bourras, membre du Parti populaire algérien de Messali Hadj et président des scouts musulmans d'Algérie. C'est un type sympathique, lui, alors. Bourras, devenu agent des services secrets nazis, avait remis à des officiers allemands des documents auxquels lui donnaient accès ses fonctions au sein de l'amirauté. Découvert par la police française, il fut condamné pour espionnage et fusillé. Après l'armistice... Vous entendez bien ce que je vous dis. Fusillé après l'armistice par les autorités françaises au moment où la France occupée était supposée collaborer avec l'occupant. Ça veut dire qu'après l'armistice signé avec les Allemands, on fusillait en France les espions au service de l'Allemagne. C'est pas la première fois qu'on le dit, mais c'est quand même intéressant. Ça montre que l'idée qu'on donne aujourd'hui de la collaboration, c'est peut-être pas très exactement conforme à la réalité.
C'est bien de le dire, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'auditeurs, jeunes en particulier, qui tombent des nues. Pour leur donner un chiffre, simplement pour leur donner une idée de la proportion, on leur parle, on nous parle sans cesse de la division SS française. La minuscule Albanie, minuscule mais musulmane, a donné deux divisions de SS à Hitler.
Alors, je continue. Si, la raison principale pour laquelle la collaboration des indépendantistes islamo-maghrébins avec l'occupant national-socialiste échoua fut l'opposition des personnalités et des partis de la collaboration. Cette opposition ne rencontra que de rarissimes exceptions individuelles, c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui, tout en appartenant au parti de la collaboration, étaient partisans d'une alliance entre les Maghrébins, les Algériens et les forces d'occupation. Exemple, le philosophe et publiciste socialiste Félicien Chaleille, membre de la Ligue des droits de l'homme, qui était le théoricien pur et dur de l'anticolonialisme, puis du RNP de Marcel Déat, où il se fit l'avocat de l'indépendance du Maghreb. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire, ne serait-ce que pour dire que la vérité n'est pas un bloc, contrairement à la révolution. Il y a eu des Algériens qui sont venus se faire tuer en France et en Allemagne et en Italie pour libérer la France, mais il y a eu aussi des Algériens qui, avec le soutien de citoyens français socialistes et membres de la Ligue des droits de l'homme, ont collaboré avec les Allemands et collaboré d'une façon particulièrement
militaire
et sanglante. Voilà. Et
Jean-Pierre Rondeau, le pied noir, va sans doute nous dire que la plupart de ces libérateurs de la France couverts de médailles ont été massacrés par le FLN.
Voilà,
par
c'est ce que j'allais dire, c'est que ce qui arrive avec ce film, c'est bon, ça fait partie de tout notre environnement actuel, mais c'est quelque chose de terrible. Pourquoi ? C'est terrible pour la France, c'est terrible pour les Français qui ne sont pas avertis. C'est-à-dire que aujourd'hui, on se retrouve déchiré. Qui étaient ces soldats qui sont venus effectivement dans l'armée française et comme je le disais, qui ne composaient qu'une partie de la moitié de l'armée française, ce sont des gens qui se sont fait descendre tout le long de la guerre d'Algérie. Et ils étaient les premières victimes. Ils étaient fiers de leur décoration, fiers de leur drapeau. Et le FLN les tuait quotidiennement. Il y a un écrit qui est célèbre, qui est le porte-drapeau de Mostaganem, où il y a eu je sais plus combien, mais je crois que c'est 12 porte-drapeaux qui se sont succédés les uns après les autres, et chaque fois que un type se faisait descendre, un musulman, il y en avait un autre pour relever le drapeau. Or, pour nous, ils ont fait partie de cette grande famille que abusivement on appelle les harkis aujourd'hui. On a tendance à les avoir rangés d'ailleurs dans la même. Et aujourd'hui, à nouveau, on a un déchirement. On est en train de se séparer parce que ces combattants qui, pour la plupart, se sont fait descendre par le FLN, sont récupérés par ceux qui sont encore aujourd'hui les suppôts du FLN et les suppôts de l'Algérie algérienne.
Je me souviens quand j'étais tout gamin, j'étais adolescent, ma mère soignait un monsieur qui s'appelait Bellaribi et qui venait se faire soigner avec toutes ses décorations. Or, il habitait dans le bidonville de Nanterre. Et il venait avec ses décorations pendantes. Et ma mère lui disait, monsieur Bellaribi, c'est pas prudent. C'était en pleine guerre d'Algérie. Hein. C'est pas prudent de vous promener comme ça. Un jour, on va vous faire un mauvais sort. Et il répondait, je me suis battu pour les avoir. Je vais pas les retirer pour rester vivant. Et effectivement, ils ont fini par le tuer. D'ailleurs, il a été abattu d'un coup de revolver dans le dédale du bidonville de Nanterre. Donc il y avait des personnages magnifiques, c'est sûr. Mais comme toujours, la vérité est double, ou voilà. Triple, ou quadruple. Enfin, ça dépend du point de vue. C'est comme une boule de balle planchée. Ça tourne et ça envoie la lumière partout. Et là, on voit bien que. Alors, ce qui est absolument scandaleux, non, c'est pire que scandaleux, c'est insupportable intellectuellement et moralement, c'est que. Depuis De Gaulle, les pensions de ces anciens combattants avaient été, comme disait élégamment De Gaulle, cristallisées. Je trouve le mot magnifique.
Loi de 59.
Ouais. C'est-à-dire bloquées dans l'état de l'époque. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils doivent toucher, je ne sais pas combien.
Le tiers des pensions.
Ouais, voilà, bon. Oui.
Un auditeur vous dit, pour 28 mois dont 24 de combat en Algérie, je perçois royalement 37,20 € par mois comme ancien combattant. Je ne suis ni sénégalais ni tunisien. Moi aussi, je suis cristallisé. Voilà. Et Le Pen, l'autre jour à la télé, a dit qu'il devait toucher autour de 35.
Ouais, c'est ça.
Alors, cet auditeur a-t-il fait le choix de la nationalité française en 1962 ? C'est aussi la question qu'il faut poser.
Alors, en tout cas,
parce que s'il a été combattant français dans l'armée française, et s'il a fait le choix de... Bon, je peux vous citer un exemple célèbre. Monsieur Mekachera touche une retraite d'ancien combattant, certainement. Et elle ne doit pas être cristallisée, la sienne. Donc, ceux qui ont fait le choix aussi de la nationalité française, je le dis, je dis pas que le fait d'avoir cristallisé est excusable, mais je pense qu'il faut tout dire et il faut que chacun
bien
soit
sûr.
Conscient.
Mais ce dont je voulais parler, c'est du fait que, donc il y a à peu près 50 ans, pas tout à fait, entre 45 et 50 ans, leurs retraites ont été bloquées. Et depuis, des dizaines et des dizaines de gens, que ce soit des militants, enfin des sympathisants de la cause des harkis se sont battus, ont réclamé que ces anciens combattants, qui sont des anciens combattants, soient traités comme tous les anciens combattants, c'est-à-dire qu'ils touchent la même chose que les autres. Et on ne leur a jamais répondu, on n'a jamais accusé réception, ça a eu un silence total. Et là, vous avez trois clampins qui se réunissent pour faire un film qui est entièrement financé, d'ailleurs, il faut le savoir, par le Maroc et l'Algérie. Il n'y a pas un sou français dans cette histoire. C'est un film, une production algéro-marocaine.
Comme va l'être
une raison de plus. Et une raison de plus pour y courir.
Une campagne de médias.
Dont le président de la République donne le là, quand même.
Bien sûr. Et... Tac, le lendemain, on dit, ah ben voilà, maintenant on va payer les pensions. Alors,
il y a les élections.
Comment voulez-vous prendre au sérieux, quel que soit le sujet, mais quel que soit le sujet, hein, je dis bien, comment voulez-vous prendre au sérieux un pouvoir qui, pour une histoire comme ça, après avoir résisté à toutes les démarches, je dirais, officiels, d'élus, de représentants officiels d'associations et tout, cède devant trois histrions.
Hein. Et quels histrions, enfin, hein, trois bouses et sa patte folle, Nasseri, le drogué multirécidiviste.
Voilà, bon, en tout cas, là, il cède. Et je vous rappelle quand même que la justice vient de classer le dossier de la prétendue tentative d'assassinat sur un homosexuel,
Sébastien Nouchet, à Béthune,
qui prétendait qu'on avait jeté de l'essence sur lui, que des anti-homophobes d'extrême droite, bien entendu, avaient jeté de l'essence sur lui et avaient enflammé cette essence. Le dossier est classé faute de preuves. J'aimerais bien savoir, c'est quand même extraordinaire. Ce type avait fait 29 tentatives de suicide, je crois, avant cette histoire-là. Et c'est lui qui a mobilisé, c'est cette affaire qui a mobilisé le banc et l'arrière-ban, Chirac en tête, bien entendu, de la classe politique, de la classe médiatique, de la classe tout ce que vous voulez, pour obtenir cette loi, qui est une loi complètement idiote, que même les homosexuels se trouvent idiote. qui interdit de dire le moindre mot sur ce qui reste quand même, je regrette de devoir le dire, un comportement un petit peu oblique.
Qui interdit, ouais. Serge, de dire le moindre mot. Comme je me sens visé, je me permets de préciser.
Pourquoi vous êtes...
Non. Qui est sous peine d'un an de prison. Parce que l'affaire Sébastien Nouchet a été classée non-lieu, mais la loi, donc, lancée par Chirac en s'appuyant sur cette fabrication comparable à l'affaire de la fausse agression du RERD, ouais, donc sur cette falsification, elle est toujours là. Et donc, supposez, accordez-moi 30 secondes pour créer une image, supposez qu'hier, j'aille arroser le bouclage du Libre Journal tout seul parce que mon chef est devenu complètement abstème depuis 15 jours et que je bois une chope ou deux de trop dans mon bistrot préféré de la Contrescarpe et que je me prenne la tête avec une bande de jeunes gens. Ce sont des suppositions que je fais là, je vous raconte quelque chose qui s'est produit, un petit peu efféminé qui se trouve là, qui sont dans mes jambes, qui me contrarient. Et que je leur dis, je sais pas, toi PD, je t'ai pas sonné. Dans le meilleur des cas, ils vont me dire, le plus vraisemblable, ils vont me dire, ouh, la rapporteuse, je les entends d'ici, quoi que ça ne se soit pas produit, cette histoire que je raconte, je l'invente hein, au fur et à mesure. Mais s'ils prennent la mouche, un an de prison et 50 000 euros d'amende contre des plaisanteries séculaires qui font une partie du fond et du génie français. C'est insupportable. On nous passe cette loi stalinienne qui détruit une liberté. Son prétexte s'évanouit. Ça fait rien. On continue. Serge, j'ajoute, puisque vous cherchez encore haleine, que votre exposé sur les beurs à croix gammée tout à l'heure s'appuyait sur un excellent article, révélons-le, d'Igor Verhoff dans le numéro 383 du Libre Journal. Ça allait sur deux pages, c'est intéressant. Ceux que le sujet intéresse peuvent le commander.
Voilà. Et puis un auditeur nous signale qu'aujourd'hui dans le Figaro, je ne lis pas le Figaro, c'est-à-dire à ma courte honte, il y a un article d'Alain Mimoun. Voilà un monsieur que j'aime beaucoup, en revanche, qui disait les tabors marocains volontaires n'étaient pas considérés comme des soldats. Ils avaient donc droit au pillage et tout et tout. Pouvez-vous en dire plus? Effectivement, c'est...
Ce qu'on a mis les Marocains, notamment, en tête des troupes qui sont rentrées en Allemagne, ouais, pour effrayer les Allemands, on le sait, hein.
Tiens, j'ai lu hier un bouquin qui était préfacé par Kessel, qui a été publié en 48. Un bouquin, il est pas long, il fait 50 pages. C'est le récit par un rescapé des camps, des vengeances qu'ils ont tirées de leurs geôliers. Et c'était tellement atroce que Kessel dit qu'il a eu le cœur soulevé en lisant ça, mais qu'il doit à l'histoire de faciliter la publication de ce livre. Et que ça se termine par l'exécution par les soldats américains de gars qui étaient dans les camps et qui s'étaient vengés de leurs geôliers avec une telle atroce violence que les Américains les ont condamnés et fusillés. C'est une histoire. Je donnerai le titre si ça me revient. Voilà. Est-il vrai qu'Hitler faisait partie d'une petite loge maçonnique qui s'appelait Loge de Tulé? Je ne sais pas. Je n'étais pas maçon à l'époque. Je ne suis pas au courant. Voilà. Quoi d'autre? Autre message, c'est tout.
Non, il y en a d'autres. Il y a un auditeur, il vous dit, lors de mon service militaire en Allemagne, en 1982, il y avait dans ma caserne des harkis. Les autres appelés se moquaient d'eux, et quand un jour je leur ai expliqué ce que les hommes avaient fait pour la France, ils sont tombés des nues. C'est un ancien des pupilles de l'air.
Non, mais c'est pas possible. 1982, des harkis.
Si, en 82, oui, c'était peut-être
non,
des filles de harkis.
Non, mais c'était des vieux monsieur.
Oui, je pense. Un ancien pipin, tiens.
Mon père, indigène de France, a aidé les indigènes d'Afrique du Nord à libérer la France, corps expéditionnaire français. Suis-je habilité à toucher une pension, nous demande cet auditeur. Et cet autre nous assure que le grand mufti de Jérusalem faisait des prêches pro-Allemagne pendant la guerre pour parraine des Juifs.
Oui, là, il y a une photo du grand mufti dans le numéro en question du Libre Journal. Mais enfin, le grand mufti de Jérusalem, sauf erreur de ma part, n'était pas algérien. Il ne fait pas partie des anciens combattants décorés et retraités.
Voilà. Et un autre auditeur, alors là c'est un message personnel. Serge, à chaque fois que je vous entends tousser, ça m'inquiète. Soyez gentils, soignez-vous, oui, mangez du miel.
Mangez,
on a besoin de...
Attendez, alors là, si on, je ne sais pas si beaucoup de Français qui mangent autant de miel que moi. Moi, je mange du miel produit par M. Santaine, qui n'est autre que le père de l'évêque de Vannes, le nouvel évêque de Vannes, qui fait un miel absolument délicieux. Et si vous êtes bien sage, un jour, je vous donnerai l'adresse. Ouais. Voilà, c'est tout.
Et bon rétablissement à Jean Ferré, ajoute le 7 auditeur.
Bien sûr,
et une auditrice vous suggère, c'est une question, Serge de Beketch invitera-t-il le prince Louis puisqu'il est en France en ce moment?
Oh, je veux bien l'inviter, mais il ne viendra pas. Il ne viendra pas.
Dans le cadre de l'Union patriotique, peut-être.
Oui, c'est ça, oui. Chante, Fifi. Voilà, quelque chose d'autre à dire?
Vous écoutez Radio Courtoisie, continuez. Oui,
voilà. Monsieur,
pour l'instant, j'ai pas mal de choses à dire.
On va parler, mais je vais me tourner maintenant vers Christian Pérez, qui est président du Parti Populiste. Alors, je vous avais reçu il y a un certain temps, au moment de la fondation de...
Vous nous aviez reçu en 2005, effectivement, lors de la fondation, et puis une autre fois à la rentrée 2005, après les grandes vacances.
Alors, je vais vous demander d'abord de définir le Parti Populiste, quelle est sa spécificité par rapport aux autres organisations est-ce que c'est de la droite nationale?
Le Parti Populiste, bien sûr, appartient à la droite nationale, c'est une évidence. Il a été créé pour tenter de remettre au travail la multitude de gens qui étaient sortis du combat national à la suite de la scission de 98. Et c'est dans cet objectif-là que nous nous sommes mis à travailler. Alors nous avons, à cette occasion, intégré l'Union des Patriotes, dont vous vous souvenez qu'elle s'est matérialisée lors du discours de Jean-Marie Le Pen à la fête des Bleus Blancs Rouges de l'année dernière. Le Parti Populiste, à ce moment-là, a spontanément décidé d'intégrer cette Union des Patriotes pour une raison, j'irais, évidente, puisque lors de notre création, nous avions donné comme sous-titre à notre association le Rassemblement des Patriotes. Donc c'était assez logique d'intégrer l'Union des Patriotes. Nous sommes donc sur la même longueur d'onde que Jean-Marie Le Pen à ce sujet.
Mais en dehors de cette action pour un rapprochement, enfin pour une Union des Patriotes, qu'est-ce qui fait votre spécificité par rapport à d'autres mouvements comme le Front National ou le MNR?
Alors en fait... Si on veut se lancer dans une comparaison avec le MNR, je reprendrai une thématique du MNR qui, à mon sens, était une erreur, qui était l'appellation « la vraie droite » par opposition à la fausse droite. C'est une façon de se barrer les électeurs qui, par erreur dans leur vie, une fois, ont voté à gauche. Parce qu'il y a des tas de gens qui ne sont pas marxistes et qui votaient à gauche, et qui le faisaient simplement... dans la recherche d'un espoir de protection sociale, et qui maintenant ont parfaitement compris que cette protection sociale qui aurait pu leur être donnée par la gauche protège plus les étrangers et même les clandestins que les Français de souche. Donc je crois que c'était une approche qui était de nature à bloquer les choses. Et sur ce plan-là, nous travaillons sur la même logique que le Front National, c'est-à-dire en direction d'un électorat populaire de couche moyenne et populaire, en excluant aucune couche, bien évidemment. Mais il est clair que c'est de notre peuple que doit venir la solution, et c'est vers lui qu'il faut se tourner. C'est une évidence.
Alors, ça veut dire, pour l'instant, vous m'avez surtout dit votre différence avec le MNR. Quelle est votre différence avec le Front?
Ben, la différence avec le Front, en fait, idéologiquement, il n'y en a pas. Le problème, pourquoi est-ce qu'on reste... c'est tout à l'heure, quand je disais que nous sommes sur la même longueur d'onde que Jean-Marie Le Pen, j'imagine que vos auditeurs peuvent être amenés à se dire, pourquoi ne retourne-t-il pas au Front National?
Comme tant de...
Voilà. Alors, le problème, c'est que je m'en suis expliqué avec Jean-Marie Le Pen, puisqu'il nous a reçus à deux reprises. Je m'en suis également expliqué avec Marine Le Pen il y a, je ne sais plus, 15 jours. Le retour au Front National, en groupe, je dis bien en groupe, pas au niveau de l'individualité, est impossible. Car les conditions de ce retour ne sont pas acquises, ne sont pas requises. Pourquoi ? Lorsque nous sommes partis en 98, le Front National nous a remplacés par une nouvelle génération de cadres et de militants. Ces gens-là qui ont milité pendant 8 années pour leurs idées, seraient-ils aujourd'hui ravis de voir revenir les anciens en groupe? Je pense qu'on se retrouverait ainsi dans la démarche d'une sorte de fusion entre deux entreprises. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne dis pas que l'entreprise Parti Populiste est aussi importante que l'entreprise Front National. Hein, je n'aurais pas cette pensée à l'esprit. Simplement, le retour, dans ces conditions-là, nous mêle dans le cadre d'une fusion. Et quand il y a fusion, il y a doublon. Et je ne dis pas qu'au plan national, il y aurait des doublons, bien sûr, mais à l'échelon départemental, ça pourrait créer des frictions. Et j'ai donc expliqué à Jean-Marie Le Pen, qu'il n'avait pas besoin d'un tel, passez-moi l'expression, d'un tel foutoir quelques mois avant l'élection présidentielle, sachant les opportunités extraordinaires que peut apporter cette élection aux candidats de l'Union des Patriotes.
Ouais, je comprends bien votre remarque, enfin votre position, mais elle me paraît à moi contradictoire avec les origines même du Front. Ça s'appelle le Front, c'est pour une raison précise, parce que c'est pas un parti, c'est un Front, c'est-à-dire c'est un rassemblement de diverses tendances, et que quand le Front a été créé, j'y étais au moment de la fondation. Je n'étais pas membre du Front, puisque je n'ai jamais été membre du Front National.
Ça a été mon cas en 1982.
J'ai assisté à la création. J'ai même assisté à un des premiers bureaux politiques en 60, je crois que c'est 72, oui. Bon, il y avait des royalistes, il y avait des gens de la... comment je dirais, pour pas faire de peine à Marine Le Pen, je peux pas dire des fascistes. Mais quand même, c'était bien ça, quoi. En 72, il y avait bien des gars qui étaient encore... Maintenant, plus du tout. Et Dieu sait que le fascisme, maintenant, on sait que c'était quelque chose d'atroce. On a compris, mais à l'époque, il y avait encore un peu de... Il y avait des solidaristes aussi, il y avait... des gens qui appartenaient à des univers assez différents, qui avaient des idées politiques assez différentes, qui en gros étaient réunies par d'abord la souffrance de l'affaire algérienne, ensuite par le projet de défendre la France contre une dégradation et un glissement qu'on sentait venir, et de la protéger contre une immigration qui était déjà de plus en plus prégnante. Et donc tous ces gens-là ont dit faisons taire nos différences et unissons-nous.
Également pour, aussi avec le charisme de Jean-Marie Le Pen qui a su faire taire toute cette chapelle.
Ça n'a été rendu possible que par la personnalité de Jean-Marie Le Pen.
Qui se présente lui-même, pour terminer le panorama que vous venez de faire, Serge, en avril 2002 au Parisien, comme un homme politique de centre-droit, ajoutant que s'il apparaît être à l'extrême droite, c'est pas tellement à cause de la propagande incessante de certains médias que du fait du glissement général du reste du personnel politique vers la gauche. Lui-même a été poujadiste et se voit comme centre-droit.
C'est pour ça que, voilà, j'en viens à ce que je voulais dire. L'argument selon lequel l'intégration d'un mouvement au sein du Front pourrait apparaître comme de nature à engendrer des doublons, c'est un argument qui vaut aujourd'hui, mais qui ne valait pas à l'origine du Front.
Ah, tout à fait, oui. Hein? Il vaut aujourd'hui parce qu'on se retrouve dans cette situation. Lorsque nous sommes partis, c'était un ensemble de cadres et de militants. Il est évident qu'on a dans nos rangs un certain nombre de gens qui ont une qualité qu'il serait dommage d'utiliser pour coller des affiches, alors qu'ils ont un certain métier au plan politique. Et le Parti Populiste, à ce moment-là, leur donne la possibilité de se retrouver à un niveau intéressant, de travailler au niveau argumentaire, etc., et d'apporter au Front National je ne dirais pas un plus, mais de travailler avec lui en complémentarité et sans agressivité.
Mais alors, il y a quand même encore quelque chose qui reste un petit peu étrange, c'est l'apparente contradiction, mais j'ai pas tout compris, entre l'attitude de Jean-Marie Le Pen qui est parfaitement expliquée, qui est parfaitement claire, qui dit voilà, faisons une union des patriotes pour unir toutes les forces nationales sur un candidat unique qui sera moi ou un autre, dit-il, mais enfin bon, on suppose que ça sera lui. Et dans le même temps, il est clair qu'il y a de la part de ce que j'appellerais la génération Marine, un blocage total sur ce plan, puisque toutes les interventions portent sur la nécessité de se débarrasser de l'extrême droite, la nécessité de faire sortir les blaireaux du mouvement, l'urgence d'épurer le mouvement, l'absence de toute nécessité de passer un accord avec, ouvrez les guillemets, les racialistes du MNR. Alors, c'est pour moi qui suis un esprit simple, je me demande comment on peut mener ces deux discours de fond, hein, c'est le cas de le dire, d'une part union des patriotes et d'autre part union des patriotes sauf les blaireaux, les fachos, les cathos bien sûr, etc. Ça me paraît, je sais que la navigation à la godille est une spécialité des marins pêcheurs bretons, et je n'inclus pas Jean-Marie Le Pen là-dedans parce que il navigue pas tellement à la godille, il aurait plutôt tendance à aller droit au vent. Mais je comprends pas. Vous comprenez ça?
Ce que je peux vous dire, c'est que on se retrouve dans une situation simple. Si nous revenions au front, il nous faudrait faire un choix entre les différentes chapelles. Nous ne voulons pas faire de choix entre les différentes chapelles. C'est leur problème en interne. Si Marine a des positions et si Jean-Marie Le Pen en a d'autres, encore qu'il faudrait le démontrer, qu'elles soient très éloignées les unes des autres.
Ah, je ne sais pas si elles sont différentes. Moi, je n'entends que...
Donc, nous, notre raisonnement, il est simple. L'opportunité est extraordinaire au plan politique pour 2007. Nous avançons. La logique de la création du Parti populiste, je me souviens, lors de sa création, elle était simple. Un con qui marche va toujours plus loin que deux intellos assis. Okay. Alors bien sûr, il y a des gens qui vont dire ce sont des cons, ils marchent. Oui, ils pensent ce qu'ils veulent, n'empêche qu'on avance, n'empêche qu'on arrive à remettre au travail une foule de cadres et de militants et qu'on s'intègre dans le travail de la campagne présidentielle.
Ça, je comprends très très bien. Mais je veux dire, il reste quand même que... Pour moi, il y a une apparente contradiction, en tout cas dans la gestion de cette opération, entre Jean-Marie Le Pen qui dit on fait une union, c'est-à-dire on redynamise ce qui a créé le front il y a 35 ans, c'est-à-dire ce sentiment qu'il faut vraiment agir tous ensemble dans un but unique, au moins à la présidentielle, et puis après peut-être aux législatives, et puis d'autre part les gens qui disent dont Marine, qu'ils cachent pas, je veux dire, je ne l'accuse de rien, je constate tout simplement, et je dis que je suis pas d'accord avec ça, mais mon opinion n'a strictement aucune importance, qui constate, enfin qui dit que bah oui, l'union d'accord, mais pas avec cela, pas avec cela, pas avec cela, pas avec cela.
Oui, mais
donc à force de saucissonner les gens avec lesquels on veut faire l'union, ça va devenir de plus en plus difficile.
Christian Pérez,
est-ce que ce n'est pas difficile d'intégrer l'Union des Patriotes, comme le fait par exemple Bruno Maigret, tout en maintenant sa candidature à l'élection présidentielle, puisqu'il l'a réaffirmé la semaine dernière dans votre émission, oui, il l'a réaffirmé le lendemain dans la presse.
Oui, mais ça, c'est ce qu'il a expliqué.
Alors, bien sûr, il s'agit peut-être de faire monter un peu la pression pour peut-être obtenir quelque chose. Lui veut rentrer dans le cadre d'une négociation. Nous rentrons spontanément dans cette logique, parce que nous sommes des militants, parce que nous souhaitons apporter nos compétences en termes de propagande. Bien sûr, on distribuera des tracts, on collera des affiches, mais on ira également chercher des signatures pour le candidat Le Pen de l'Union des Patriotes. Et puis, nous contribuerons également par des documents. Et alors, je précise à ce niveau que tout ce que nous ferons au niveau propagande, ce seront des documents du Parti populiste. C'est-à-dire que nous n'irons pas coller les affiches du front ou distribuer les tracts du front. Car je crois qu'il est intéressant pour les lecteurs qui passent dans la rue de voir une affiche sur un mur qui signée du Parti populiste qui appelle à voter Jean-Marie Le Pen. Ça peut l'inciter à se dire, tiens, il y a un second parti politique qui soutient Jean-Marie Le Pen. Et on a peut-être bien besoin de ce type de mode de fonctionnement.
Alors,
à l'heure actuelle.
Maigret, lui, placé lors de l'émission où il était reçu dans une perspective, dans la perspective des législatives, très clairement. Hein, bon, c'est son droit, c'est son jeu. Est-ce que vous avez la même position? Est-ce que après la présidentielle, quel que soit le résultat, vous présenterez des candidats aux législatives?
La logique est simple. Nous, au Parti populiste, nous l'avons dit dès notre création, nous ne présenterons jamais un candidat face à un autre candidat du camp national. C'est carré. Si le Front National reconnaît dans notre présence une qualité et une responsabilité et une honnêteté, peut-être jugeront-ils bon de nous attribuer ou de nous laisser nous présenter sur un certain nombre de circonscriptions, même petits. Mais en tout état de cause, il n'y aura jamais de candidat à l'élection législative du Parti populiste en face d'un candidat du Front National.
Ce qui signifie clair. Que vous avez le même accord avec Maigret et son MNR.
Alors écoutez, pour le moment, nous avons, nous, intégré l'Union des Patriotes. Bruno Maigret est encore, me semble-t-il, dans le hall d'entrée. Il attend. Je ne sais pas ce qui se passe entre eux. C'est un problème qui le regarde et qui ne nous regarde pas.
Est-ce qu'il y aura
nous chercherons l'idée de liste commune lors des élections municipales.
Est-ce qu'il n'y a pas... je vous pose la question, je fais l'imbécile ou l'homme pour avoir du foin, mais il y a un problème de personnes entre une des figures de votre parti, je vais le nommer bien sûr, et le patron du MNR, donc Timmermans et Maigret.
Alors le problème, c'est qu'il y a en ce moment un contentieux qui résulte du procès de Marseille, puisque Bruno Maigret est confronté à un problème avec la justice locale. Au sujet des envois illicites de courriers qui ont été faits dans le cadre de la campagne présidentielle, de sa candidature à l'élection présidentielle. Je précise qu'il n'y avait pas que ces courriers-là, d'ailleurs, il y en avait également deux autres qui ont été envoyés également par la mairie de Vitrolles, de la même manière, illicite, c'était une erreur. Tout le monde l'avait prévenu à ce moment-là. Deux autres donc pour la candidature de Catherine Maigret à la présidence de l'Association des maires de France. Ça fait donc quatre envois qui ont été réalisés par la mairie de Vitrolles. Et quand Bruno Maigret affirme que seuls les témoignages de Franck Timmermans et d'Hubert Fayard sont à l'origine de sa mise en examen, j'aimerais moi rappeler que lorsque Fayard et Timmermans ont été convoqués par le juge d'instruction le 12 janvier 2004, Madame Catherine Maigret était déjà mise en examen depuis la fin 2003, ainsi que trois autres cadres, Jérôme Denol, Yves Bovéro et Christophe Beaupère. Et c'est parce que Sol et Innocent étaient mis en examen que Fayard et Timmermans sont intervenus auprès du juge d'instruction pour rétablir la chronologie des choses. Alors quand Bruno Maigret dit que cette affaire aurait été close, non, elle n'aurait pas été close, parce que c'est le parquet qui a été saisi dans cette affaire, non pas par les révélations de Franck Timmermans, mais par la Cour régionale des comptes. Les témoignages devant le juge d'instruction de Fayard et de Timmermans ont donc consisté simplement à tenter de disculper aussi bien Catherine Maigret que Denol, que Bovéro et Beaupère, et à rétablir les faits, parce que la responsabilité des envois, elle incombait à Bruno Maigret. C'est un fait.
Alors, deux questions. Est-ce que pour vous, ce différent, pour employer un mot faible, étant donné l'ambiance qui peut régner entre... l'esprit de chaude camaraderie qui peut régner en ce moment entre Tim et Maigret, est-ce que cette affaire est de nature à remettre en cause la participation... votre participation commune à l'Union des Patriotes, pour être clair, est-ce que vous dites, bon, si Maigret intègre, nous, on fout le camp?
En aucun cas.
Bon, donc c'est bien clair.
Là aussi, les choses sont très nettes.
Il n'y a pas d'exclusion de personne.
Il n'y a pas d'exclusion de personne. Nous disions clairement que le Parti populiste a intégré l'Union des Patriotes. Dans ce cadre, il travaille en complémentarité et sans agressivité avec le Front National. Et si Bruno Maigret décide de mettre un terme à sa candidature à l'élection présidentielle, candidature qui, à mon sens, ne serait entendue par les nationaux que comme une candidature de division dans le cadre actuel. Parce qu'à partir du moment où Le Pen lance son appel à l'Union, je trouve qu'il est un peu spécieux de continuer à maintenir cette candidature. Et donc si...
Il faut retenir son explication.
Voilà. S'il décide de rejoindre l'Union des Patriotes, eh bien, le Parti populiste travaillera en complémentarité et sans agressivité, aussi bien avec le Front qu'avec le MNR. Et ce que je voulais, c'est que ces affirmations aient été corrigées et qu'il n'y ait plus d'ambiguïté. Voilà.
Voilà. Dans la mesure où Tim avait été mis en cause, vous avez parfaitement le droit et même, je dirais, l'obligation de donner votre point de vue. Maintenant, à propos de votre point de vue, je voudrais vous poser une question plus personnelle. Qu'est-ce que vous pensez de ce procès, le procès qui est fait à Maigret? Est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même que dans le maelstrom d'affaires, toutes plus scandaleuses les unes que les autres, dont on est les témoins ou les spectateurs, et qui concerne les hommes politiques du plus haut niveau, il y a encore un ministre là qui est mis en cause.
Bien sûr.
Bon,
parce que vous voulez dire.
Vous n'avez pas l'impression que c'est extraordinairement subalterne? D'une part, c'est quand même une histoire de timbre-poste, faut pas charrier. Et puis il est pas les vendre les timbre-poste. Oui, mais enfin bon, il est pas les vendre les timbre-poste au marché.
Non.
Au marché Marignan pour s'acheter une BMW. Je sais. Et puis, je dirais. Est-ce que c'est pas aussi la preuve qu'il y a un acharnement absolument féroce du système maçonnico-politico-médiatico-judiciaire pour écraser un homme?
J'abonde dans votre sens, Serge de Becquetch. Il est évident que tout l'encadrement du MNR, aussi bien de la mairie de Vitrolles que du siège du MNR, avait à l'époque insisté et dit à Bruno Maigret, attention, cette décision est de nature à faire retoquer votre compte de campagne. Maigret a décidé de le faire quand même, le compte de campagne a été retoqué, et à la suite de cela est arrivée la cascade d'événements catastrophiques avec l'impossibilité de payer les créanciers, etc. C'est donc, quand on appartient au camp national, qu'on prétend appartenir au camp national, on ne peut pas se lancer dans les mêmes, et qu'on veut rétablir l'ordre en France, il est évident qu'on ne peut pas se donner les mêmes possibilités que ces messieurs du système.
Il faut,
c'est à ce niveau-là que l'erreur a été faite.
Vous avez tout à fait raison. Moi, je dirais, je ferai une toute petite réserve qui est fondée sur mon expérience personnelle, très brève à Toulon, c'est que on n'est pas considéré, on n'était pas du tout considéré comme les autres. Et on était à Toulon a été sous la surveillance monomaniaque de tous les services possibles et imaginables de l'administration, minute par minute. C'est-à-dire que les téléphones étaient contrôlés. Je ne sais pas qui s'est écouté, je dis que c'était contrôlé. Pourquoi avez-vous appelé ce numéro? Est-ce que c'est un coup de téléphone personnel? Est-ce que alors vous faites payer votre téléphone personnel par la mairie? Pourquoi avez-vous utilisé la voiture de la aide du maire pour aller à la poste? Enfin, c'était ça. Et à chaque fois, avec des signalements à la Cour des comptes, comment appelle-t-on ça, régional.
Régional.
La Cour des comptes régionale, avec des remontrances, avec des observations, avec des lettres. C'était infernal, littéralement infernal. Donc, forcément, quand vous êtes, c'est comme un élève dans une classe, quand vous êtes sur son dos, tout le temps, en disant, écris pas comme ça, tiens ton stylo mieux que ça, tu vas attacher ta page, tiens-toi droit, croise pas les jambes. Bon, il y a un moment où le gosse, il fait une bêtise, forcément, parce que si on cherche, on finit par trouver. Et que moi, je trouve, c'est pour ça que je suis scandalisé par cette affaire, sur le fond. Bien sûr, il aurait pas dû le faire, c'est clair. Mais sur la dimension que ça prend, quand on sait que par ailleurs, on a la présidente de la République, un homme qui s'est littéralement goinfré avec l'argent public.
C'est clair.
Des valoches entières de billets et tout, et lui il est parfaitement à l'abri, enfin il est en train d'essayer de se préparer une protection pour l'après-présidence.
C'est là qu'était le problème,
c'est ça.
Mais bon, cela dit, regardez, tout découle de cette calamiteuse scission, parce que les expériences municipales d'après 95 qui ont été menées par le camp national se sont toutes terminées d'une manière pas très élégante. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de lisibilité à la suite de la scission. Si Bompard est parti chez Villiers, si le maire de Marignane est parti à l'UMP, le Vitrolles, ça s'est mal terminé, tout simplement c'est parce qu'il n'y avait plus de lisibilité, et donc d'où l'intérêt de recréer cette union des patriotes et de recommencer à travailler tous ensemble. Hein, c'est là qu'est le but à atteindre.
Victoria veut dire que de choses.
cette union des patriotes, elle se conçoit que dans la perspective à la fois de la présidentielle et des législatives.
Et des municipales aussi.
Oui, aussi, mais enfin c'est surtout... Et c'est un accord à faire avant la présidentielle.
Voilà, c'est vrai.
Alors, à ce propos...
Quand on voit, alors il y a des messages d'auditeurs qui disent, c'est des auditrices aussi, chamaillez-vous un petit comité, la France n'a pas besoin de vos querelles, arriverez-vous à vous entendre ? Comment va-t-on arriver si on continue comment va-t-on y arriver si on continue ces querelles de concierges ? Nous sommes désespérés. Réaction des auditeurs.
Oui, mais je crois. Enfin, oui, je vous laisse la parole.
Je crois que la vie n'est qu'un rapport de force, de A à Z. Alors, et on ne peut intégrer quelque chose que dans le cadre d'un rapport de force.
L'union est un combat, c'est ce que la gauche dit. Voilà, et pratique, absolument. On le voit d'ailleurs en ce moment.
On le voit bien à gauche.
On rigole.
Tout est basé sur un rapport de force.
Des orions et des claques et des croche-pieds qu'ils se font, mais c'est la sélection naturelle, et c'est comme ça, c'est avec cette sorte d'union combative et combattante qu'ils nous taillent des croupières depuis des siècles.
J'ajouterais que cette idée d'union des patriotes, elle a un caractère positif annexe ou collatéral, c'est qu'elle dévoile les choses. Et notamment en ce qui concerne Philippe de Villiers. Moi, Philippe de Villiers, au début, j'avais dit, je me prononce pas, je sais pas, après tout, peut-être qu'il est vraiment sincère, etc. Bon. Et je suis resté dans cette position très très longtemps. Et puis là, la semaine dernière, il y a un type qui est arrivé, un brave gars, qui est arrivé avec ses gros croquenots et qui a mis les pieds dans le plat de couscous, hein, en sautant avec bonheur, involontairement. Il s'appelle Gasly, c'est ça, hein. Alors Gasly, Gasly, c'est le porte-parole de Rossino au groupuscule valoisien.
Rossino, maire de Nancy.
Rossino, maire de Nancy. Et les radicaux valoisiens, c'est le petit bout de radicaux qui est tombé à droite quand la machine commençait à se déglinguer. Donc ça n'a aucune existence autre qu'une espèce de fantasme politique que les radicaux existeraient encore en France, etc. En tout cas, ce Gasly fait donc partie de la majorité présidentielle. Et il a demandé que on présente un candidat aux législatives contre Villiers.
Mais ça date de deux mois,
y compris la réponse. Oui, bien sûr.
C'est pas de la semaine dernière, voilà. Ça date de deux mois.
Et le Eschliemann,
le maire de
Eschliemann, le maire d'Asnières,
92,
Sarkozy.
Oui, je suis désolé pour ce lapsus, il est totalement involontaire. Faut préciser maintenant parce que les oreilles ennemies nous écoutent. Hein. Donc Manuel Eschliemann, qui est député maire d'Asnières, un peu gêné, a dit non, c'est pas une très bonne idée, on va pas présenter quelqu'un contre Villiers. Alors ça me paraît quand même bizarre parce que Villiers, chaque fois qu'on l'entend sur cette antenne ou sur d'autres, il passe son temps à savater Sarkozy, le traite d'atlantiste, il le traite de communautariste, il dit qu'il ment quand il prétend avoir rétabli la sécurité. Enfin, vraiment, c'est un des contempteurs les plus violents de Sarkozy. Et quand on connaît le petit bonhomme, Sarkozy, il doit avoir qu'une envie, c'est d'avoir la peau de Villiers. Et pour avoir sa peau, c'est très simple. Hein. Et comme il est le patron des préfets déjà en ce moment, il peut lui poser des gros gros problèmes dans sa région. Et puis il suffit qu'il dise je vais présenter.
Et puis on lui met des candidats partout.
Et voilà, des candidats partout, et bam, il disparaît. Or, il présente personne. Et alors, Eschliemann a dit, c'est parce que nous ne confondons pas les troupes qui sont avec leur mentor qui est un peu excité.
Caricatural mentor.
Avec leur caricatural mentor. Mais ça tient pas debout, puisque c'est justement contre le caricatural mentor que Gasly demandait qu'on présentât un candidat. Donc, moi, je trouve que tout ça, ça pue l'arnaque.
Et d'ailleurs, il y a, je ne sais plus quel ministre, Ratier vous le dira tout à l'heure, mais qui a dit, c'est les cinq futurs ministres, et il est dedans. Hein, donc
Villiers, disons-le plus clairement, Villiers est programmé, dans le Figaro, alors cette fois, c'est il y a 15 jours,
voilà, je cherche
voilà, pour être un des principaux ministres de Sarkozy s'il est élu. C'est,
c'est ce que dans les promesses, en tout cas, parce qu'après on verra.
Oui, il est probable que c'est ce que j'ai dit hier soir.
C'était la possibilité aussi pour Sarkozy d'envoyer Villiers quérir des électeurs sur les terres de Le Pen, les fidéliser et ensuite les réapporter à Sarkozy dans le cadre d'un second tour éventuel.
Mais il n'est pas dit que ça, il n'est pas dit que ça marche pas. Moi, j'ai au journal, j'ai reçu une lettre de quelqu'un qui me dit. Vous êtes inconscient, vous êtes en train de faire le lit de Madame Royal. Bon, c'est une expression à prendre.
Vénard.
Non, non, franchement, alors là, bon.
Elle est mignonne.
Chacun ses goûts.
En attaquant Sarkozy, vous préparez l'élection de Madame Royal. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi,
c'est pire.
C'est pire, Sarkozy. Ah oui, parce qu'au moins, ça ne veut pas dire que je vais voter Royal. Moi, je vais voter Le Pen aux deux tours, comme toujours, de toute façon. C'est bien clair. Mais elle n'est pas encore candidate, oui. Mais je au moins avec elle, on sait qu'on a un ennemi. Avec Sarkozy, on a un ennemi, mais masqué, qui est le pire des ennemis.
Avec Villiers, vous voulez dire?
Avec non, avec Sarkozy, je dis bien avec Sarkozy. Non,
vous trouvez Villiers masqué, ah bon?
Ah oui, masqué, parce qu'il prétend qu'il est, ouais. Il prétend qu'il est de la droite, qu'il est la droite sécuritaire, la droite patriote ou le national, etc. Or, il y a quand même un gag extraordinaire, c'est que, toute proportion gardée, n'exagérons pas. Un gag très amusant. J'ai reçu Minute tout à l'heure qui titre Sarkozy
champion
de l'islam. Et moi, dans le journal, je dis Sarkozy. Je fais un papier qui explique que selon moi.
Dites-moi quel papier, c'est un plus.
Sarkozy est un candidat à la botte de l'Israël. Alors, ça prouve bien quand même que la confiance ne règne pas tout à fait.
Il y a beaucoup de Français qui croient même qu'il était à la botte des États-Unis, purement et simplement.
Ben ça, il l'a dit clairement. Mais c'est vrai qu'on n'a pas tout à fait la même interprétation des événements, mais n'empêche que les gens sentent bien, comme rentre en plan, l'opinion publique sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
D'ailleurs, nous, on avait débusqué le phénomène Villiers en septembre de l'année dernière, puisqu'on lui avait envoyé 13 questions, que j'avais lues ici, d'ailleurs, à votre antenne, auxquelles il n'a jamais répondu. Jamais. On voit bien que le but, c'était d'ouvrir l'esprit des gens.
Et j'ai un ami qui a envoyé, pas 13, mais 5 questions extrêmement simples à tous les candidats. Je dois dire que pour l'instant, le seul qui a répondu, c'est Maigret. Je suis désolé, mais enfin tous les candidats potentiels.
Alors, cette affaire Villiers nous permet d'expliquer, et je crois que je suis bien placé puisque j'étais encore de gauche il y a à peine 25 ou 30 ans, en quoi l'union est un combat et un combat de sélection. C'est-à-dire, il y a un aspect tactique là-dedans. C'est-à-dire qu'on tend la main, comme Jean-Marie Le Pen l'a fait vers Villiers. Villiers crache dedans. Une certaine démonstration est faite, puisqu'on propose donc d'enterrer les querelles, de s'unir, on vous crache dans la main, les électeurs comprennent si le cracheur, à quel point le cracheur est attaché à l'intérêt national. C'est ce qui se fait, c'est la tactique du front, on appelle ça le front unique à l'extrême gauche, on tend la main, on propose l'unité, par exemple pour diriger une grève, pour obtenir des revendications, à remarquer que ces bureaucrates ne veulent pas de l'unité, donc on les détache. De leurs partisans. Et en l'occurrence, moi je pense que quand Villiers crache dans la main de Jean-Marie Le Pen, mais d'une façon, j'ai oublié cet imprécis, mais c'était d'une grossièreté incroyable, il fait une démonstration encore plus claire que cette histoire de ministère qu'il n'a pas défendu, qu'il n'a pas démenti, je dirais, pour terminer.
Vous voyez, le parti populiste à ce niveau-là a une situation très amusante. Nous connaissons un certain nombre d'anciens cadres de la droite nationale qui, après la scission, sont partis chez Villiers. Eh bien, nous entendons maintenant taper à notre porte et ces gens-là se disent peut-être que le parti populiste est une bonne solution pour rejoindre ce mouvement dynamique qu'est l'Union des Patriotes.
La seule chose, si vous permettez, Jean-Pierre Rondeau, d'élu 18 ans, donc, et maire adjoint, etc., c'est que l'argument que vous avez, et c'est pas ni une critique, ni une... Mais l'argument que vous avez en disant on veut pas s'opposer en rentrant au F FN, on veut pas aller prendre la place de, et ça se passerait mal, de certaines personnes qui sont maintenant montées en tant que petits élus, en tant que militants, en tant que responsables locaux, c'est que au moment des législatives, de toute façon le problème se posera, parce que à moins que vous acceptiez d'être 12e ou 27e de liste selon la taille des communes, mais d'être le dernier de liste. Les municipales, oui, mais aussi au niveau des législatives, c'est que vous irez bien prendre de la place de quelqu'un. Donc,
je pense que tout se gère dans le cadre du rapport de force. C'est si on sait se faire respecter, reconnaître comme des gens responsables et qu'on amène par exemple un certain nombre de signatures à la campagne de Jean-Marie Le Pen.
Mais moi, je voudrais
on peut très bien être reconnu comme des collaborateurs
du malheur du militant, parce que je l'ai vécu. Hein.
Oui, mais je sais bien.
C'est que par aussi, exemple, vous avez prenons tout. Un exemple, je sais pas, une grande figure, quand vous parachutez Marie-France Tirebois qui se battait à Dreux et qui descend dans le sud, elle vient prendre la place d'un type qui est peut-être là en train de se battre depuis 10 ans ou 20 ans, et d'un côté il y a le fait que vous avez une personnalité qui va amener effectivement des voix, qui amène quelque chose au parti, et de l'autre côté vous avez des gens qui se sont battus sur le terrain pendant des années. Et
c'est pour ça qu'il faut supprimer les élections, c'est tout. Ça fait longtemps que je le dis.
Le rouet.
Alors, merci Christian Perret. Est-ce que vous me laissez juste dire un mot au sujet de notre université pendant que je suis là?
Oui, il me reste 2 minutes.
Elle se déroule le 14 et 15 octobre à Tournu. Nous aurons comme orateurs Martin Pelletier, Guillaume Fay, Pierre Vial, Jean-Claude Rollina, Patrick Brocard, Emmanuel Leroy, Franck Timmermans bien sûr, Dominique Zint et votre serviteur. Les conditions, le thème de notre université est les conditions de la crédibilité de l'Union des Patriotes au plan politique et économique dans la future bataille de 2016. Et on peut trouver tous les éléments sur notre site internet www.parti-populiste.com ou en nous écrivant à Parti Populiste, boîte postale 145 92 406 Courbevoie-Cedex.
Je peux répéter parce que
donc le site internet www.parti-populiste.com, la boîte postale Parti Populiste, boîte postale 145 92 406 Courbevoie-Cedex.
Merci Christian.
Merci à vous.
Une auditrice nous dit alors Bruno Maigret a dit que sa situation, si l'Union patriotique se fait, il ne se présentera pas à l'élection présidentielle. Et si je vous comprends bien, dit un auditeur, l'Union des Patriotes est une utopie qui va tout simplement conduire Jean-Marie Le Pen à son plus mauvais score depuis 20 ans.
Alors ça, je parie pas.
Attention. Écoutez la suite. Il ne maîtrise plus son bureau. Monsieur Gollnisch, délégué général, n'existe pas. Et c'est Marine, cinquième roue du carrosse, qui conduit ce dernier dans le fossé.
C'est bien pour ça qu'on ne peut pas retourner chez eux, parce qu'il y a un problème de choix de chapelle. Et il ne faut pas se lancer dans cette catastrophe-là maintenant.
En l'occurrence, cet auditeur, il a choisi aucune chapelle, parce que vraiment, il trouve que tout le monde n'est pas à la hauteur.
Il a la dent dure. Hein.
Bah, il reste Le Pen, quoi. Voilà.
Utopie. Mais l'utopie. Et Jean-Marie Le Pen, c'est pour l'élection présidentielle.
Eh bien, c'est déjà très bien.
Mais ce qu'il joue, mais justement, s'il fait l'Union patriotique, il faut peut-être qu'il donne quelques assurances pour l'Union au moment des législatives.
Vous voyez, on a donné le droit de vote aux femmes il y a 50 ans. Hein, maintenant, elles veulent parler politique. C'est quand même extraordinaire. Il y en a même une qui se présente à la présidentielle. Oh, mais franchement. Bon, merci beaucoup, Christian Perret. À bientôt.
Merci à vous. Bonsoir.
Bonsoir. Il nous reste 3 minutes. Alors, peut-être que vous voulez nous dire un peu ce qu'il y a dans l'excellent numéro du Libre Journal qui vient.
Numéro 387. Écoutez, peut-être que je pourrais enjamber, avec votre permission, la pause technique et continuer un peu après la pause technique.
Je pourrais dire au revoir puisque je dois.
Non, je vais vous donner la parole. Vous restez 5 minutes encore après, parce que je voudrais vraiment que vous nous disiez quelque chose sur cette histoire de retraite.
Voilà.
Bon, alors je prends un train tout à l'heure.
Hein, après, pour, je vous libère, oui, 5 minutes.
Donc, j'ai simplement le temps, là, pour le moment, de dire que, de raconter une blague vécue. Vous me disiez tout à l'heure, Serge, que vous n'aviez pas reçu le Libre Journal 387 de l'imprimerie, et vous en étiez assez mécontent. Du Verger, pourquoi tu tousses? Eh bien, pour vous consoler, sachez qu'il est en vente à la librairie France Libre. Voilà, on croit, je sais pas comment ils se débrouillent, ils vont le chercher à Livry Gargan, mais voilà, France Livre nous envoie un fax, pour nous narguer, je présume. Donc, voilà. Alors moi, je m'appuie. Heureusement, j'ai gardé les épreuves. J'ai gardé les épreuves du journal donc qu'on a bouclé hier. Je peux vous confirmer ce qu'on a annoncé mercredi dernier, à savoir que, procédant à l'inverse des énergumènes et des extrémistes de la grosse presse, qui ont publié un flot pendant des semaines, un flot de commentaires ineptes pour la plupart sur le discours de Ratisbonne de Benoît XVI, nous, beaucoup plus humbles, beaucoup plus calmes et posés, nous nous contentons, sous un chapeau assez bref, de publier l'intégralité du discours du pape, avec en vis-à-vis, donc sur 7 pages en tout, les commentaires des uns et des autres. Et nous laissons le soin à nos lecteurs de se prononcer. Alors, je pense que ce numéro 387 se recommande déjà uniquement par ce procédé qui est le nôtre, et par la publication d'un discours dont je dois dire, il faut être honnête, qu'il faut quand même avoir pas trop roupillé, fait sa terminale, philo, et ne pas avoir roupillé d'un bout à l'autre. Il faut quelques notions élémentaires de philosophie. Mais bon, moi-même, je roupillais la moitié du temps, j'étais un affreux cancre, et j'ai compris 90% du discours du pape, qui est passionnant, qui est consacré non pas à l'islam, comme le répète, le copie les uns sur les autres, les énergumènes et les extrémistes des gros médias, mais au rapport entre la raison et la foi. Bon, c'est un sujet du bac, on peut en rigoler, mais c'est quand même un sujet passionnant, et le discours du pape est passionnant, et il mérite d'être lu par lui-même.
Merci, mon cher Patrick. Vous aimez bien le livre journal. Vous,
oui.
Vous êtes abonné?
Oui.
C'est bien.
Le pape aussi, pour un ancien
machiniste. Oui, je trouve qu'il est, il va venir. Voilà, je crois que nous avons fait le tour de la première heure et nous allons maintenant passer à la deuxième partie de cette émission. C'est à nous.
C'est à nous. Oui, oui. Arrêtez votre cirque.
Vous êtes à l'antenne, mon cher Gauthier.
Merci, mon cher Serge. Donc, je termine la petite page de publicité pour le Libre Journal. Je vais vous dire, moi, je suis de moins en moins gêné d'occuper 2 minutes d'antenne. Quand, par exemple, je prends France Inter hier et que le sujet annoncé, c'est les rapports entre la critique cinématographique et la diffusion des films, et que 2 minutes avant la fin de l'émission, Jeanne Labrune, représentante du syndicat des réalisateurs, dit, écoutez, je suis extrêmement gêné, extrêmement mal à l'aise, parce qu'on m'a invité à une émission consacrée au rapport de la critique et de la production cinématographique, et je me retrouve à faire 1 heure la promotion de Télérama. Bon, alors si Télérama fait sa promotion sur une chaîne que nous payons avec nos impôts, je pense qu'il est possible que le journal de Serge de Beckett ait 2 minutes d'antenne. Alors j'en termine sur ce numéro 387 qui est sorti aujourd'hui des presses pour aller tout droit donc à la librairie France Livre et pas chez Serge de Beckett et pas au bureau du Libre Journal. Tout simplement en énonçant quelques autres articles. La question de Villiers, futur ministre de Sarko, c'est l'objet de l'éditorial, et il y a pas mal de détails intéressants et croustillants qu'on n'a évidemment pas eu le temps de mentionner tout à l'heure. Je rappelle qu'on publie l'intégralité du discours du pape avec pratiquement pas de commentaires de notre cru, ce qui changera agréablement les clients des gros médias, ces énergumènes extrémistes.
Il y a le papier de Brignot quand même sur Jospin père et fils qui vaut le déplacement. Hein.
Voilà, alors il paraît que, je tombe des nues, Robert Jospin était, je cite, socialiste, lui aussi, mais par ailleurs pacifiste, collabo avec un K et réviso. C'est du joli et c'est dans le Libre Journal sur 2 pages toujours très toniques de ce monument de la presse patriotique, ce monument historique même qui est François Brignot. Voilà, on a des révélations.
Mais lui, il n'est pas en péril.
Non.
Contrairement à... parce qu'il n'est pas subventionné par la Caisse des Monuments Historiques.
On a des révélations que vous ne trouverez sans doute pas dans le quotidien du médecin avant quelque temps sur la proportion de Français assez importante que les calmants, les antidépresseurs à base de benzodiazépine transforment en fous meurtriers. Ça semble être le cas du père qui a assassiné ses enfants à Tourcoing, l'homme qui a fait la même chose en Isère, ils étaient sous benzodiazépine. On entre dans les détails que je ne peux même pas effleurer ici.
Je rappelle que j'avais reçu le président de l'association AAAVM, l'association des victimes du médicament, à ce micro.
Notre divin marquis, je signale qu'il rentre ce soir exactement quand l'émission se termine à 21h, donc il n'est pas parmi nous, mais il nous donne un compte-rendu, bon, sans doute un peu tardif, mais tout à fait remarquable, un reportage très bien observé, très très fin, sur les obsèques de Gérard Houry le 24 juillet dernier au cimetière du Montparnasse. Voilà, il y a 24 pages qui sont presque entièrement rédactionnelles, à l'exception, bien entendu, de la page 24, où nous faisons notamment la publicité de Lire sous les pommiers. Anne Brassier nous convie dimanche prochain, 1er octobre, sous les pommiers en Normandie, dans le Calvados, entre Honfleur et Deauville, ma foi, au manoir de Blosseville. On peut être accueilli à l'arrivée du train de 8h49. Donc, il y a beaucoup de...
Presque.
C'est pas 8h47, non, pas tout à fait.
À 2 minutes près, on était bon.
C'est Saint-Lazare, parce qu'il y a des Parisiens qui vont sous les pommiers, 8h49 à Paris-Saint-Lazare. Donc, il y a une pléiade de plusieurs dizaines d'auteurs prestigieux, dont toute l'équipe du Libre Journal, il n'y a pas plus prestigieux. Et ça se passe donc à peine de pis, au manoir de Blosseville, de 11 à 18h le dimanche prochain, 1er octobre.
Je corrige, pardon, il a dit une pléiade de dizaines, donc une pléiade de dizaines, c'est 70.
Sans compter que l'amas de la pléiade compte beaucoup plus de 7 étoiles.
Voilà, ça, voilà.
Voilà, je parlais donc du Libre Journal numéro 387, sorti des presses aujourd'hui même. Si je vous ai convaincu de vous procurer cet exemplaire, ce numéro du Libre Journal, c'est 5€, de préférence un carnet de timbres. Si vous avez enfin compris qu'il faut s'abonner, si par exemple vous aviez peur de votre facteur ou de votre concierge, sachez que vous recevrez le journal sous pli discret, comme on dit dans d'autres commerces.
Comme les catalogues de caoutchouc.
Voilà. Voilà, oui, et puis si vous voulez le lire au cabinet, il n'y a pas de problème, ça, d'une main, ça ne nous dérange pas. Il y a de plus en plus de photos, d'ailleurs de plus en plus audacieuses dans ce journal. Donc c'est 110€. Réabonnement 100€, abonnement d'un tiers par un abonné, 100€, à l'ordre de SDB, 4 places France Liste, 75-010, Paris.
Alors Jean-Pierre Rondeau, vous êtes venu aussi ce soir pour nous parler de... Alors je vous avais demandé de préparer un topo sur cette histoire de retraite. Est-ce que vous avez le temps de le faire? Parce que vous avez un train à prendre.
Voilà, je prends un train pour Lyon. Là, je vais au salon Patrimonia, et si qui est un grand salon financier. Et si des auditeurs de Radio Courtoisie veulent venir, ils peuvent me demander à l'entrée. Je les ferai rentrer gratuitement. Oui, vous m'aviez demandé deux travaux. Et voilà. Malheureusement, vous tenez pas votre plan.
Je ne tiens pas mon émission.
Donc, un, c'était sur le monde de rapatrié, mais on le met de côté. Et vous m'aviez demandé un travail parce que il s'était échangé un email sur le net avec la lettre des contribuables associés, voilà, qui parlait donc des retraites, des différences de retraite entre fonctionnaires et privés. J'avais renvoyé un tout petit mot en attirant l'attention qu'en plus de tout ça, il y avait le fait que certains pouvaient bénéficier de d'avantages particuliers pour se constituer des retraites à côté de la retraite officielle, et donc une forme d'épargne un peu comme on l'a à travers l'assurance vie. Et donc j'avais cité la préfonds, dont on entend souvent la publicité à la radio. La préfonds, eh ben, est destinée aux fonctionnaires, 10% de leur revenu net, c'est-à-dire après la déduction des 10 et 20% peuvent être cotisés donc dans cette forme de retraite, et à partir de là donc avec un maximum de 10%, et à partir de là ces sommes sont déductibles de leurs impôts totalement. Et Et ensuite, en plus, on peut racheter plusieurs années de cotisation dans certains cas. Voilà. Donc, je signalais ça. Il existe.
Mais pourquoi c'est que les fonctionnaires? Pourquoi les gens qui travaillent n'ont pas droit?
Écoutez, je sais pas. Moi, ce que je dis, c'est que les gens qui le font ont peut-être raison de le faire. Hein. Après tout, puisque ça existe, il faut en profiter. Hein. Ceci étant, j'y émettrai de grosses réserves parce que cette retraite, c'est une retraite donc ensuite. Donc les fonds ne sont pas disponibles à la différence de l'assurance vie. Et compte tenu des problèmes de retraite qui existent aujourd'hui, je pense que ça leur sera en partie volé. Donc j'attire l'attention, mais c'est vrai que c'est immédiatement rentable.
Ce que vous voulez dire, c'est qu'il ferait mieux de prendre une assurance vie.
Mais immédiatement, vous avez un gain fiscal. Je ne sais pas, justement, comme je ne suis pas devin, je ne peux pas. Il existe deux autres systèmes qui sont la Cegos et la Corem, qui sont pour les hospitaliers et les mutualistes. Il existe la Caral, qui est faite pour les anciens combattants. Hein. Et surtout, il existe donc un autre système qui est un peu différent, qui est la Carel Mudel, qui est faite pour les élus locaux, donc pour les élus, aussi bien pour les conseillers généraux, les adjoints, tous ceux qui touchent des indemnités, les députés, etc. Et qui consiste à donc pouvoir cotiser 8% de ces indemnités et la collectivité, donc éventuellement la mairie ou autre, met le même montant dans une même cotisation. Donc voilà. Donc une distorsion encore avec le privé, puisque ça permet de pas payer d'impôts, etc. Je dis moi-même que j'ai été 18 ans élu et dont 12 ans maire adjoint, et que j'ai profité de la Carel qui était cet avantage. Voilà. Mais je préfère être honnête. Mais voilà, c'est une distorsion entre privé et fonction publique, ou entre privé et homme politique.
J'espère qu'Emilienne, notre pharmacienne de Carpentras, a pris des notes, qu'elle a été attentive.
J'avais un message pour monsieur.
Oui, je ne sais pas, est-ce qu'il a le temps de répondre,
c'est ça. Ouais.
Je regrette de ne pas avoir entendu plus tôt monsieur Rondeau, car je viens de faire un transfert de 20% au multisupport. J'ai 72 ans, mais j'espère laisser ces 20% en long terme. Je sais que l'on peut faire des arbitrages, mais où est mon intérêt?
Ben voilà ce qui arrive quand on n'écoute pas Radio Courtoisie.
C'est peut-être pas mal, il faut que cette dame m'appelle. Le problème que j'ai oublié de citer la dernière fois, c'est que dans ces contrats, il y a une partie garantie et elle devient en partie elle reste en partie garantie et en partie action. Et la partie garantie, dans certaines compagnies, n'est plus la même gestion historique, si vous voulez. C'est une nouvelle gestion. Et les clients, on leur dit pas. C'est-à-dire qu'ils basculent dans un nouveau système en leur disant, vous conservez 80 et vous avez 20% d'action. Mais même les 80, c'est pas toujours la même gestion que les 80 qui...
Alors, madame, si vous êtes internaute, vous écrivez à jprondeau@megarafinance ou vous lui téléphonez. On peut donner votre numéro à l'antenne.
72 ans. 01 44 51 62 20.
01 44 51 62 20.
Jean-Pierre Rondeau est notre expert financier indépendant.
Excusez-moi, je laisse la place à Emmanuel.
Bon voyage à Lyon et bon salon. Merci Jean-Pierre d'être venu nous tenir compagnie. Emmanuel Ratier, asseyez-vous. Alors il va y avoir un problème de micro, de partage de micro. Peut-être que Jean-Claude Varane voudra bien venir s'asseoir à côté de Patrick Goffman, si Patrick accepte de lui laisser le micro.
Je suis un grand ami de Jean-Claude Varane et trop honoré de partager mon micro avec lui.
C'est vraiment trop.
Alors, autour de cette table, donc Jean-Claude Varane, que j'ai cité le premier, mais ça n'était pas courtois de ma part, puisque j'aurais dû citer d'abord Camille Gallic, directrice de Rivarol. Bonsoir Camille.
Bonsoir.
Ensuite, j'aurais dû citer Jan Smith, directrice de Présent.
Bonjour Serge.
J'aurais dû citer... seulement à ce moment-là Jean-Claude Varane, directeur de National Hebdo, et pour finir, le Benjamin de cette sympathique équipe, Emmanuel Ratier, directeur de Faits et Documents. Vous reconnaissez peut-être une partie de l'équipe qui sévissait sur ces ondes il y a quelques mois pour une espèce de feu de camp de la presse, un feu de camp mensuel de la presse nationale. Et je suis bien content de les recevoir. Je dois les remercier parce que pour tout vous dire, car je ne cache rien aux auditeurs, je pensais que c'était Bernard Anthony qui faisait la deuxième partie ce soir, et je lui ai téléphoné en disant qu'est-ce que tu fais ce soir. Il m'a dit ce soir je suis chez moi. Je lui ai dit il faudrait peut-être que tu bouges parce que tu fais l'émission. Il m'a dit pas du tout, du tout. Et donc j'étais obligé de téléphoner.
Chez lui dans le sud-ouest,
non ? Oui, oui, bien sûr. Et donc j'ai téléphoné à mes amis, consoeurs et confrères pour leur demander si il et elle voulaient bien se substituer à ma propre défaillance, j'ose dire, ils ont accepté, je leur en ai beaucoup de reconnaissance. Voilà, mais ça veut dire qu'on refera ça régulièrement, bien entendu. Le principe du jeu est toujours la même chose, est toujours le même. Je vais demander à chacune des personnes présentes ici de nous dire quel est le sujet qui a retenu son attention ou l'attention de son journal. Cette semaine ou cette décade ou aujourd'hui s'agissant de présent. Et je vais commencer naturellement par cette fois-ci par Camille Gallic. Que nous propose Rivarol?
Il y a quelque chose dont je trouve que la presse a très peu parlé, ce sont quand même les émeutes en Hongrie. Et ces émeutes ont été provoquées par le mensonge du Premier ministre. Un mensonge finalement pas très grave, puisqu'il a dit nous avons merdé et nous ne l'avons pas dit. Alors il me semble que c'est assez fréquent chez les politiciens d'errer et de ne pas le dire. Mais je trouve admirable, 50 ans après, la réaction quand même des jeunes Hongrois. Parce que quand on voit nos jeunes Français qui se réunissent pour les rêves partis, qui ont manifesté contre le CPE en pensant à la retraite et aux emplois, futurs, il s'agissait de lycéens qui n'étaient absolument pas concernés. Puis je rappelle quand même que la plus grosse manifestation de jeunesse, c'était en 1984, c'était pour la défense de la radio-énergie, où il y a eu 300 000 jeunes dans les rues de Paris.
50 ans après, je me permets, Camille, de le dire pour nos jeunes auditeurs, certains ne le savent pas, 50 ans après, l'insurrection de la même Budapest contre la dictature stalinienne.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Ce qui est intéressant.
Donc, si vous voulez, ça s'intitule « La Hongrie contre son super menteur ».
Oui.
Et il y a un parallèle entre ce dégoût, cet écœurement, cette révolte des jeunes Hongrois, des jeunes magyars, et l'acceptation moutonnière en 2002 pendant la quinzaine de la haine, où on a vu la jeunesse de France défiler en faveur de super menteurs, super escrocs.
Le parallèle est d'autant plus justifié qu'il faut ajouter également, pour ceux de nos auditeurs qui suivent la politique internationale de loin, que le Premier ministre en question est un socialiste, entre guillemets, en réalité un stalinien mal débarbouillé. Donc c'est vraiment...
Je ne suis pas tout à fait de cet avis. C'est un ancien... c'était même un responsable des jeunesses communistes. Mais qui s'est très vite... converti au libéralisme et qui est un homme d'affaires. Il est arrivé d'ailleurs aux affaires parce qu'il était un homme d'affaires extrêmement prospère, peut-être de manière assez douteuse d'ailleurs.
Non, il a volé, il a fait comme tous les apparatchiks, il a volé ce qu'il pouvait des sociétés d'État au moment de la privatisation. C'est ce qui s'est passé en Russie,
en Ukraine. On a véritablement
Il faut ajouter d'ailleurs que ce soulèvement en Hongrie provoque l'inquiétude générale des forces du progrès dans l'Europe dite libre, de ce qu'on appelait l'Europe libre, puisque j'ai lu un article terrifié disant en Hongrie il se passe ça, en Roumanie Gigi le fameux Gigi, milliardaire footballeur, qui représente 10, 11, 20%, on ne sait pas exactement, des intentions de vote. Il y a en Pologne les jumeaux fascistes. Et donc, oui, j'essaie même plus de prononcer les noms parce que là, ça...
Je dois mal les prononcer d'ailleurs.
Ça doit en tout cas, visiblement, c'est les forces de progrès en France sont en train de s'apercevoir que les pays qui ont subi entre 50 et 70 ans de joug communiste se montrent plutôt droitistes et on s'inquiète beaucoup.
Et on s'inquiète beaucoup qu'un des partis en pointe dans les manifestations soit le parti des 64 comtés qui revendique la... la Hongrie historique, c'est-à-dire une partie de la Slovaquie et la Transylvanie. On peut s'en inquiéter, en effet, parce qu'en maintenant que tous ces pays sont dans l'Europe, ça peut poser des problèmes.
Oui, mais c'est justement qu'on nous a expliqué que l'Europe, ça serait plus jamais la guerre.
Voilà. Et d'autre part, il y a d'autres pays qui mènent des guerres, de vraies guerres, celles-ci, pour leur... pas une grande Hongrie, mais un grand Israël, par exemple.
Oui, Emmanuel. Emmanuel Ratier, faisait document.
Oui, donc juste un point. C'était peu... On revenait un peu à la politique française. C'est l'admirable sortie de Ségolène Royal, ce qui démontre d'ailleurs son inculture totale, qui a demandé la démission du Premier ministre. Et ses camarades un peu gênés lui ont rappelé qu'il faisait partie de l'Internationale socialiste comme elle, enfin comme le Parti socialiste, ce qui fait qu'après des déclarations tonitruantes, elle a mis un bémol parce que c'était mal vu.
Je dois dire que, bon, je souhaite pas l'élection de... Vraiment, je ne souhaite pas l'élection de Ségolène, mais si ça doit être Ségolène ou Sarkozy, alors tant qu'à rigoler, je préfère vraiment, tant qu'à avoir une catastrophe, je préfère vraiment mourir de rire avec Ségolène que mourir d'ennui avec Sarkozy. Et je crois qu'elle elle va nous faire rire, probablement pas très longtemps, mais elle va nous faire bien rire.
Oh ben, ce sera Imelda Marcos.
Oui, c'est ça. Voilà, je vais collectionner les pompes. Autre chose, Emmanuel ?
Non, mais sur cette affaire, c'est intéressant. Bon, c'est quand même le rôle de la presse, parce que Camille, bon, a résumé l'affaire. Mais en fait, bon, le Premier ministre s'est adressé à huis clos aux députés. Et puis, bon, il y avait une caméra qui traînait. Et le film est sorti, qui a été beaucoup reproduit sur des... par Internet, sur des blogs, etc. Ce qui fait que les gens se sont mobilisés très vite. Et c'est pas... il a pas seulement dit, bon, on a merdé, parce qu'effectivement, il a utilisé ce terme. C'est, ils ont également... ils ont surtout menti avant l'élection.
Oui, c'est cela.
Ils ont fait une propagande en disant on va vous proposer telle chose, tout va bien, etc. Et dès le lendemain, alors qu'ils savaient parfaitement que leur programme était faux.
Bon. Mais je trouve ça
et après un an ou un an et demi, à ce moment-là, à huis clos, ils ont dit bon, bah, en plus, on était encore plus lamentables que ce qu'on avait prévu.
Mais je trouve ça sympathique, un pays qui peut encore se mobiliser contre des promesses non tenues des hommes politiques.
Oui, ça paraît une jeunesse, n'est-ce pas? Une jeunesse.
Pas une bonne maîtrise de la démocratie.
Et je ne sais pas où est le. Alors peut-être nous sommes-nous trop civilisés.
Ben,
au point de la dégénérescence.
Ça fait quand même, maintenant, ça fait deux siècles qu'on vit dans le mensonge politique.
Mais est-ce que c'est pas quand même une chose très importante du montée du nationalisme en Europe? Je crois que c'est un sujet qui sera dans les mois à venir très important.
Ah mais c'est sûr, c'est pour ça que ça inquiète beaucoup les forces de progrès qui voient que c'est tout à fait extraordinaire. Ça fait des années et des années qu'on anathémise le patriotisme, le nationalisme, l'amour de son pays, bon, le racialisme comme dit Marine. Et là, d'un seul coup, on s'aperçoit que pouf, ça sort de partout, en Grèce,
En Norvège.
En Norvège.
En Flandre.
Partout. En Hollande.
Oui.
Enfin, dans les Pays-Bas. On voit sortir des mouvements qui sont des mouvements clairement nationalistes et patriotes. C'est peut-être ça, l'union des patriotes.
On peut peut-être aller plus loin dans cette analyse. Pour revenir à une politique du problème de l'immigration, c'est le vote des Suisses.
Oui,
en plus. C'est quand même très important, parce que bon, ce pays qui était très ancré, très bourgeois, les banques, là, ils ont été à plus de 60%. C'est quand même très important. C'est pour ça que lorsque je dis...
À 68%, pourquoi, Jean-Claude? Dites-le.
Parce qu'ils sont contre l'immigration et qu'ils ne veulent plus avoir des gens qui veulent venir travailler chez eux, leur pomper leur propre travail. C'est le problème qui risque de se poser en France et qui se pose déjà.
Enfin, il y a deux volets. Hein.
Oui.
Il y a le volet asile politique et le volet immigration. Donc c'est un peu différent, mais ce qui est certain, c'est que la loi, la nouvelle loi, va être extrêmement stricte. Puisque, par exemple, ne pourra être embauché un étranger non suisse ou non européen qu'à la condition que ce travail ne puisse être exercé par aucun suisse ou aucun européen, et il faudra que l'entreprise le démontre. Donc ça limite quand même la venue de... Oui. Personne extérieure à l'Union européenne.
Et cela dit, ce mouvement me paraît quand même un peu limité dans sa capacité de résistance, dans la mesure où l'Europe souhaite très ouvertement faire entrer 20 millions d'immigrés d'ici à 2030.
Et peut-être qu'ils rentreront pas en Suisse.
Et ils ne rentreront peut-être pas en Suisse, mais ils rentreront ailleurs et ils circuleront ailleurs librement. Bah,
de toute manière, législation plus répressive de l'immigration dans un pays se traduit mécaniquement par une immigration plus importante dans les pays laxistes.
Bien sûr, évidemment.
Non, mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est parce qu'il y a eu la demande, de l'Espagne pendant l'été, qui avait régularisé, je crois, 610 000 ou 650 000 clandestins, et qui, ça a fait un appel d'air. Ce qui fait que maintenant, il y a toutes sortes de bateaux, etc. Il y en a même eu en pédalo qui ont traversé le détroit de Gibraltar et qui sont arrivés en Espagne. Ils arrivent par les Canaries, enfin par toutes sortes d'endroits. Et donc l'Espagne a demandé une aide de l'Union européenne. Ce à quoi, pour une fois, c'était absolument sidérant. La Commission européenne a dit que l'immigration n'était pas de son ressort. Alors que, par exemple, l'heure d'été est de son ressort. On ne peut pas changer l'heure d'été dans un pays où ce genre de choses, on doit être à l'heure européenne. Bon. Et bon, il y a quand même eu... Là, un certain nombre de pays du Sud, dans lesquels d'ailleurs maintenant la France est inclue, a écrit à la Commission européenne en leur demandant de prendre une position commune sur cette question.
Je voudrais faire une parenthèse pour démentir ce qu'a dit Goffman tout à l'heure en disant que Villiers n'avait pas démenti l'annonce qu'il serait ministre de Sarkozy.
Alors, oui, le MPF a démenti.
Alors, le MPF, nous opposons un démenti formel à cette rumeur colportée. Ce n'est pas un hasard par ceux qui cherchent par tous les moyens à discréditer la candidature Villiers en faisant croire que le président du MPF est un sous-marin de l'UMP. Ce n'est pas la première fois que le FN se prête au jeu de la manipulation, ce qui démontre son inquiétude. Alors, je précise quand même que l'information est sortie dans le Figaro.
Non, mais elle est sur le... Il y a un communiqué qui est...
Sylvia Pierre,
un communiqué qui est sur le site du MPF. Enfin, c'est très clair.
Non, je dis bien ça. Ils ont
démenti dès le lendemain.
Quand il dit que ce n'est pas la première fois que le FN se prête au jeu de la manipulation...
Non, c'était le Figaro.
S'il y a une manipulation, elle ne vient pas du FN, elle vient du Figaro.
Non, c'est le Figaro Magazine, c'est Sylvie Pierre Brossolet.
Oui.
Ce qui démontre son inquiétude. Hier, sur une radio, son président allait jusqu'à accuser Philippe de Villiers d'avoir reçu de l'argent de l'UMP pour faire campagne, ce qui est totalement invraisemblable, bien entendu. L'UMPF est indépendant, il n'a besoin ni de l'UMP ni du Front National pour exister. Oui, ça, je veux bien le croire en ce qui concerne le Front. Plus intéressante est la proposition et la position que déclare prendre l'UMPF au soir du premier tour, au cas où Villiers ne serait pas qualifié. Cette attitude est connue récemment, un hebdomadaire s'en faisait l'écho. Nous soutiendrons le ou la candidate qui reprendrait explicitement les cinq piliers du projet présidentiel de Philippe de Villiers. La France rurale plutôt que les technos parisiens. La famille plutôt que le mariage homosexuel ou le contrat d'union civile homosexuelle. Plus de travail, moins d'impôts. L'immigration zéro plus que l'immigration subie ou que l'immigration choisie. Une nouvelle Europe avec les patries plutôt que l'ancienne avec la Turquie. Ces cinq piliers ne sont et ne seront pas négociables. Aujourd'hui, force est de constater que pas un seul candidat en liste ne peut prétendre les respecter. Pas même Jean-Marie Le Pen. Bon. Voilà qui rejoint un débat intéressant qui sera abordé dans quelques temps. Dans notre page, libre réflexion, doit-on refuser de voter pour un candidat qui ne soutient pas toute la doctrine sociale de l'Église ou peut-on voter pour celui qui s'en rapproche le plus et qui s'en éloigne le moins ? Le MPF termine en citant un proche de Sarkozy, Estrosi. autre belle figure, qui déclarait avant les vacances d'été que personne ne peut imaginer aujourd'hui que Philippe de Villiers puisse être appelé à des fonctions au sein d'un gouvernement Sarkozy. Mais, d'accord, voilà, je prends note de ce démenti, dont acte. J'ajoute qu'il n'en reste pas moins. Alors, il faut m'expliquer pourquoi M. Sarkozy, par l'intermédiaire de Manuel Schliemann, maire, député maire de Danières, a annoncé de la façon la plus claire qu'il ne présenterait pas de candidat aux législatives là, contre Philippe de Villiers.
Mais nous alors, en quelle est la contrepartie dans ce numéro, voilà. D'ailleurs, de toute cette affaire.
Quelle est la contrepartie? C'est ça que je voulais dire. Vous nous avez parlé de la Hongrie. Camille, vous avez peut-être des sujets français aussi dans les
ventes. Ah ben, justement, nous parlions de Villiers et de...
On peut peut-être reproduire justement...
Ça n'est plus d'ailleurs... sur l'un des blogs du MPS, mais ce magnifique
ah oui,
ni Le Pen ni Maigret, dissolution du Front National, et il y avait deux cochons dont un avait un bandeau sur l'œil. Ouais. C'était du meilleur goût.
C'est une affiche de on sait de qui elle est.
Elle était sur, on donne le blog, sur le blog des jeunes du MPF.
C'est ça, voilà.
Alors, il doit y avoir, j'imagine, peut-être Goffman le sait, quelques trotskistes, puisque c'est une vieille affiche de Ralph Ron qui avait été recyclée par les jeunes du MPF.
Voilà. Vous en parlez, vous, parce que votre position est plutôt, la position de présent est plutôt, je dirais, médiane, la ou plutôt prudente en ce qui concerne Villiers.
En ce qui concerne Villiers, c'est d'écouter ce qu'il dit et de constater tout de même toutes ces contradictions internes, puisqu'il dit une chose devant un auditoire et son exact contraire devant un autre. Donc notre position est d'écouter et de relever tout cela de tous les candidats. Nous, présent n'a pas fait son choix, contrairement à vous, Serge Beketch, pour les présidentielles prochaines, mais nous restons extrêmement attentifs à tout ce qui peut se dire sur les sujets qui nous tiennent le plus à cœur. Et nous constatons d'immenses contradictions, notamment sur la loi Guesso de la part de Villiers, qui peut dire en privé ou en comité restreint, bien sûr, la loi Guesso, il faut l'abroger, et qui, dans les colonnes d'Israël Magazine, dit « Ah, mais la condamnation... »
C'est très juste, loi Guesso.
La condamnation du négationnisme est une bonne chose. Enfin, là, je parle en substance, bien entendu.
Est-ce que National Hebdo a fait son choix?
C'est une très bonne question, mais ce qui était intéressant...
Je rappelle quand même que Jean-Marie Le Pen a toujours dit que National Hebdo n'était pas le journal du Front National, c'était un journal dans la mouvance.
Non, National Hebdo hésite entre Jean-Marie et Le Pen.
Et Le Pen.
ce qui fait quand même deux personnes.
Vous êtes très gentil. Mais ce qui est intéressant, c'est la déclaration que vient de dire notre ami de présent, c'est la difficulté de Villiers d'avoir une position très précise, puisque vous venez de dire vous-même qu'il était plein de contradictions. Je crois que, en plus de ça, je voudrais quand même signaler, je crois qu'il a eu quelques ennuis avec son trésorier dernièrement, qui a donné plus ou moins sa démission. Je pense que De Villiers a peut-être sa place sur l'échiquier politique. Je pense que la lutte de Villiers-Le Pen est une mauvaise lutte de la part de M. De Villiers. Si on regarde tous les sondages, tout ceci, maintenant il faut faire très attention des sondages, la position de Jean-Marie Le Pen par rapport à De Villiers, il y a une grande distance. Et que De Villiers n'a pas répondu à l'appel de Jean-Marie sur le rassemblement patriotique, il a peut-être eu tort, il pense peut-être qu'il a eu raison, mais je pense qu'à l'heure actuelle, la distance Le Pen-De Villiers, il n'y a aucun problème, Jean-Marie Le Pen est sacrément en avance. Et puis vous venez de le dire vous-même en tant que présent, ça je suis très surpris que présent ait pris cette position, c'est de dire les contradictions de M. De Villiers.
Il y avait eu un excellent article de Jean Madiran que nous citons d'ailleurs dans l'article sur Villiers en août dernier où il pointait les contradictions du vicomte.
De toute façon, la question elle est simple. Hein. C'est est-ce que Villiers a rompu avec le système ou non? c'est-à-dire l'établissement que dénonce depuis plus d'une vingtaine d'années Jean-Marie Le Pen, etc., qui fait que, par exemple, il y a une espèce d'arc constitutionnel qui empêche toute alliance au niveau local, des désistements, même qui est le minimum, qui avait même obtenu le Parti communiste dès 1922 ou 1924 en France. Jean-Marie Le Pen, alors qu'il y a des députés qui ont préféré pratiquement s'auto-suicider en refusant d'accepter les désistements éventuels de candidats de l'UMP qui étaient de RPR à l'époque,
et qui étaient dépassés. Droite, et comment la droite a perdu de 20 régions
préférant aller vers le précipice, alors qu'on le voit bien, Philippe de Vigny n'a jamais rompu avec le système. Il est à la marge de système, mais il est dans le système. Et je pense qu'il s'est senti beaucoup plus fort après le référendum de 2005 sur l'Europe. À ce moment-là, surtout avec l'arrivée d'un certain nombre d'anciens responsables ou de militants du Front National, on voit bien qu'il y a eu des passages de cadre ou du MNR, etc. Ce qui fait que son discours est relativement droitisé à ce moment-là, en fait, devenu plus national-populiste. Et il y a eu une tentative qui lui a été... on peut dire suggéré, toute la presse en a parlé, par le secrétaire général du MPF, Guillaume Pelletier, et qui était plutôt d'essayer d'assécher le milieu Le Pen à son profit, la mouvance du Front National, pour élargir son audience. On se rend compte qu'au bout d'un an, c'est un véritable échec, et Philippe de Villiers l'a reconnu lui-même, puisqu'en fait, c'est aussi officiel, ils ont décidé d'arrêter d'attaquer le Front National, mais plutôt de critiquer Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire en fait en restant à peu près toujours au même endroit, mais en changeant l'adversaire qu'ils avaient, soit à leur droite, soit à leur gauche. Voilà. Et je pense que il n'y a absolument aucune chance c'est pour ça qu'il n'y a aucune chance qu'il réponde à l'Union patriotique, par exemple, puisque il est à l'intérieur de la majorité actuelle. On le voit bien. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces députés votent à l'Assemblée nationale ou ces députés votent au Parlement européen. Ces députés votent en faveur, pratiquement systématiquement, aux côtés des gens de l'UMP. Donc c'est pas du tout un réel vote d'opposition nationale.
Non, mais c'est un leurre en réalité, c'est ça. Il s'agissait de... C'est l'histoire de la chauve-souris. Je suis
oiseau, voyez mes ailes.
Je suis souris, vive les rats.
C'est l'UMPF, alors
C'est l'UMPF et l'UMPS. Parce que vous voulez des cathos, voilà, des cathos, voyez Madame Boutin. Vous voulez un anti-islamique, voyez Monsieur Villiers. Vous voulez un pro-islamique, voyez Monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là.
Vous voulez un antiraciste, voyez Monsieur Pelletier, qui s'est déclaré d'accord il y a quelques semaines avec Mouloud Aounit en personne sur Radio Classique.
Voilà, alors donc, comme ça, l'avantage de l'UMP, c'est que c'est un parti puissant, riche et nombreux, et il peut sortir à chaque fois de son chapeau le garant, la caution qui plaira à telle ou telle partie du système. Et là, avec Villiers, ils ont fait très fort, parce que c'est vrai que on voit bien, là, les certains messages qu'on reçoit, les gens nous disent, mais comment pouvez-vous attaquer Villiers ? On n'attaque pas Villiers. On dit simplement, on énumère des faits, c'est factuel. Je dis, quand je dis à l'Élysée, on a quelqu'un qui est un voleur, qui s'est enrichi de rapines sur le trésor public, là j'attaque effectivement quelqu'un. Mais quand je dis Villiers, Villiers prétend être ce qu'il n'est pas et prétend qu'il fera ce qu'il ne fera pas, je l'attaque pas. Je présente des faits, tout simplement. Le fait est que l'UMP ne présentera pas, dans l'état actuel des choses, de candidat contre lui. Ça veut dire quand même qu'il a des rapports particuliers avec l'UMP.
Ce sont des rapports d'ailleurs très particuliers, puisque localement, c'est quand même c'est absolument inédit et unique en France pour un département. Les militants UMP locaux ont créé une association, en clair, pour contrer le MPF en Vendée, et l'association a été montée par le responsable de l'UMP et local et le responsable du PS local. Et le responsable de l'UMP local en a ras la casquette de voir qu'à chaque fois il peut pas présenter ses candidats, ses responsables, etc., parce qu'il reçoit des ordres de Paris lui disant
ménager
Philippe de Villiers. C'est pas du tout. Alors, le discours que je tiens là n'est absolument pas un discours de propagande. Pour donner un exemple, il y a eu une page ou une page et demie dans Libération, il y a deux ou trois mois, sur cette association. Tous les faits que je cite, par exemple, sur le fait qu'il vient de changer de positionnement, c'était à son université d'été, ce sont des choses tout à fait officielles.
C'était même déclaré au Monde, voilà.
Bon, on peut dire que, en revanche, bon, par exemple, Philippe de Villiers réussit remarquablement, par exemple, les spectacles qui vont au Puy du Fou, des choses comme ça. C'est pas une volonté systématique.
Il n'y a aucune mise en cause personnelle, mais c'est vrai que le spectacle du Puy du Fou est magnifique, mais j'ai beaucoup ri, j'ai pas ri d'ailleurs, mais enfin beaucoup de Français ont ri au spectacle de Bigard. C'est pas pour ça qu'on va voter Bigard au présidentiel. Alors, c'est chacun son boulot. S'il veut faire des spectacles, il réussit très bien, je m'en félicite. Votre hargne contre Philippe de Villiers ne s'explique-t-elle pas par le fait que c'est le seul homme politique qui a osé défendre la communauté juive contre les agressions perpétrées contre elle par les islamistes? Mais madame, ou monsieur, vous foutez du monde. Attendez, tous les hommes politiques rampent, y compris d'ailleurs ceux du Front National, qui passent leur temps à dire que, véritablement, il est très très loin de leur pensée d'avoir la moindre attitude critique.
Mais il y avait une délégation du Front National, aux manifestations Justice pour Ilan Halimi.
C'est pas sérieux. Je constate que tous ces bons catholiques de Radio Courtoisie avec Beckett veulent mettre à la tête de la France un président qui n'est même pas marié et qui tire à boulet rouge sur M. de Villiers. Je sais pas de qui il parle. Qu'est-ce qui n'est pas marié?
François Hollande.
On est démasqué, là, c'est un coup dur.
Si j'ai bien compris, vos attaques systématiques contre Villiers, les gens de votre tendance à cap Villiers, mais sont très compréhensif envers le Hamas et le Hezbollah, comme nous en avons une illustration ce matin chez Rosanne. Oui, alors là, je vais vous dire quand même. Bon, je veux bien lire les messages, mais il faut arrêter de dire n'importe quoi. Hein, si vous voulez, je vous montre mon casier judiciaire. Et encore, actuellement, je suis poursuivi pour. J'ai été poursuivi de toutes les manières possibles et imaginables par toutes les organisations islamo, arabo, algéro, musulmo, tout ce qu'on veut. Alors ça, j'ai vraiment pas de preuves à donner de ma pureté la pureté de mon racisme déclaré ou prétendu sur ces ondes. Faut quand même pas
le monsieur
pas écrire n'importe quoi. Oui, c'est une plaisanterie. Où est la cloche à blague? Voilà, je ne suis pas raciste, bien entendu, puisque c'est interdit. Mais franchement, dites pas n'importe quoi. Enfin, ne faites pas perdre notre temps. Voilà, donc on peut peut-être changer de sujet, parce que non, il y a encore des choses pour dire que M. Villiers est de la chance.
Je vous les ai tous donnés. Bon,
non, mais ils vont arriver en masse après.
Je crois qu'on a abordé un sujet très consensuel, c'est sur les 25 ans de la peine de mort.
Oui.
De l'abolition de la peine de mort. Une décision que nous déplorons, et je pense que là, il se trouvera beaucoup de lecteurs de Radio Courtoisie. D'auditeurs de Radio Courtoisie, excusez-moi.
Pas encore de téléspectateurs.
Oui.
Pour mesurer ce que nous avons perdu avec l'initiative de M. Badinter en 1981.
J'ai entendu Pascal Clément faire sur France Info son mea culpa d'avoir voté contre l'abolition de la peine de mort. Et Pascal Clément ajoutait, écoutez, les parlementaires ont été en avance sur l'opinion, ils ont dirigé l'opinion, c'est ce qu'il faut faire. C'était tout à fait intéressant dans une démocratie comme la nôtre.
Ce pauvre Pascal Clément qui a raté cette fois sa licence de droit. Et qui est quand même ministre de la Justice après avoir été représentant d'une grande marque de photocopieurs. Et qui n'a été placé là que parce qu'il est chargé
ça
de
prendre toutes ses chances.
Parce qu'il est chargé de protéger le président de la République quand il ne le sera plus. Ouais. J'ai vu cette déclaration qui est absolument lamentable. Mais pour un ministre de la Justice, enfin le garde des Sceaux, c'est-à-dire quand même toute l'histoire de France, j'étais atterré. On avait l'impression d'entendre Lionel Jospin disant « Je regrette de pas avoir soutenu le Pax ». Enfin, c'est du même calibre.
Enfin, je voudrais quand même rappeler que de 1970 à 1981, il y a eu 5 meurtres d'enfants, donc en 10 ans. Et de 1984 à 1993, en 9 ans, il y en a eu 84.
Alors justement, à ce propos...
Le tueur d'enfants Van Gelhoven, on lui a demandé pourquoi il n'avait jamais tué aux États-Unis, il a répondu parce qu'il y a la peine de mort.
Voilà. Alors, Bermet nous dit sur France Inter, pas plus tard qu'hier, que la peine de mort n'a aucune incidence sur la criminalité, il a menti. C'est bien la première fois.
Ouais, c'est étonnant. À propos de peine de mort, je voudrais quand même lire un texte que m'envoie un auditeur, qui est une lettre adressée à un caïd algérien par le Front de Libération Nationale. Alors vous allez voir que ces gens qui étaient soutenus par toute la gauche, donc la gauche abolitionniste de la peine de mort, hein, on est bien d'accord, c'est les mêmes gens qui étaient contre la peine de mort et qui étaient pour l'indépendance de l'Algérie et qui étaient les porteurs de valises du FLN. Alors le FLN écrit « Cher caïd, par ordre, enfin c'est pas le FLN, c'est l'ALN, donc en l'occurrence, par ordre de l'Armée de Libération Nationale, je tiens à vous annoncer que votre tête sera tranchée. Je vous le jure, vous ne m'échapperez jamais, même si vous partirez au bout du monde. Vous rapportez tout ce qui se passe à l'administration. Je me marierai avec ta femme, mais pour échapper à la mort, vous avez un délai de 5 jours pour démissionner. Au revoir, sale tête. Signé, commissaire politique. Moi, je pense que si on envoyait des lettres comme ça aux gars qui font des bêtises, ça les calmerait pas mal. Non, c'est plutôt calmant, quand même.
Oui, mais cela dit, on est confondu par ces fautes d'orthographe. Il y en a un qui a envoyé des lettres au président de la République et puis il l'écrivait tellement mal qu'on l'a retrouvé.
Ah oui, ça. Alors il y en a une autre qui est jolie aussi. Travailleur ouvrier qui travaillait chez les Français ou israélites, nous vous intimons l'ordre d'abandonner le travail chez les Français ou israélites. Il n'aura qu'à s'en prendre à lui-même. Ô ouvrier traître, si nous le surprenons en train de travailler chez l'infidèle, personne ne te délivrera de nos mains. Le lecteur est prié de diffuser cet avis à tous les ouvriers. Si tu ne le fais pas, que nous tuons quelqu'un parmi eux, la faute retombera sur toi. Ô ouvrier traître, si ne cesse pas ton travail chez les Français, nous te tuerons comme nous avons tué les premiers ouvriers traîtres. Assez. Ouvriers traîtres, vous vous en prendrez à vous-même des conséquences.
Mmh. Hein? On croirait la Corée du Nord.
C'est une nouvelle catégorie.
Et par ailleurs, il faut les remercier de nous avoir libérés en 45, voilà. Si j'ai bien suivi.
C'est ça, vous avez très bien suivi.
Je voudrais ramener un petit peu sur un sujet actualisé. Et je voudrais que les confrères donnent un petit peu leur opinion. Ce sont les déclarations du ministre de l'Intérieur au commissariat de Bobigny, en les traitant de connards, d'incapables et tout ça. Alors voilà un patron qui engueule d'une façon grossière. Alors, moi, je ne comprends plus à quoi joue Sarkozy.
C'est pas facile d'engueuler les gens de manière polie. Hein.
Je suis d'accord avec toi, Miratier, mais enfin, traiter les gens sur lesquels on s'appuie de connards et d'incapables, et que c'est rapporté par les commissaires eux-mêmes, moi je trouve ça assez extraordinaire. Je pense que M. Sarkozy est un petit clébard qui essaye de mordre et qui se cassera la gueule. Voilà.
Fabius l'a traité de caniche. Voilà. Mais moi, je suis pas tellement. Enfin bon, on n'est pas là pour exprimer. Enfin, pour exposer nos idées. Non, mais il faut quand même reconnaître que la police fait quand même tout pour se mettre l'ensemble de la population normale à dos.
Oui, bien sûr.
Qu'elle veuille ou non.
Les contrôles de police ont lieu uniquement dans les contrôles de vitesse. Les voitures, les PV de voitures, etc., ont uniquement lieu les voitures enlevées, par exemple, je sais pas, le lundi de Pentecôte ou des choses comme ça, au moment où ça gêne personne, tout le monde l'a vu, on met les radars là où ça peut rapporter d'argent sans se faire casser la figure. Et là, on risque de se faire casser la figure, on reste à l'intérieur du commissariat, on regarde dans l'heure tournée, de préférence, on préfère le faire à des heures où ça va compter double. Alors, à force de vouloir faire une police, entre guillemets, démocratique, où systématiquement, les gens qui veulent défendre le drapeau et l'ordre ne sont pas engagés, on en arrive quand même à une police qui est en train de ressembler de plus en plus, ce que souhaitent évidemment les gens, à la composition nationale de la France. On peut pas dire que ça soit des gens très efficaces, et moi je comprends parfaitement que le ministre de l'Intérieur s'étonne de ce genre de choses, notamment en Seine-Saint-Denis. Alors je pense qu'il a eu plus raison de s'intéresser au tribunal de Bobigny, où on a le président.
Ça veut dire que tu défends la position de Sarkozy, qui en plus de ça se permet, lorsqu'il fait une descente, je ne sais plus dans quel département, de convoquer 250 les journalistes et les télévisions. Il faut être cohérent.
Non, ce que je veux dire, c'est que le
patron, il est quand même le patron.
Mais oui, c'est pas les policiers qui posent les radars. Hein,
je simplifie les choses. Oui. On a tous vu cette espèce de plaisir sadique que prennent les policiers parce qu'ils ont remarqué que votre veilleuse ne marchait pas ou que vous aviez. Bon, c'est. Non. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les policiers ne font plus que ça et qu'au lieu. Bon, voilà.
Je répète ce qui
c'est horrible.
J'ai dit ça 10 fois à ce micro. Il suffit d'aller sous le métro aérien à Barbès pour voir les policiers qui surveillent les voitures qui passent pour voir si les automobilistes ont bien mis leur ceinture. Et derrière, à 1 mètre derrière, vous avez les dealers qui fourquent de la cam.
Ils ont des ordres.
Et quand on leur pose la question, on dit pourquoi vous faites ça, ils disent on a des ordres. Et je voudrais dire.
Il ne faut pas se faire d'illusions. Si la police est fondamentalement de gauche.
Si
on croit qu'on va s'appuyer sur le rempart de la police pour éviter que Paris brûle, on se trompe complètement. Les seuls endroits, les seules unités correctes qui sont, c'est par exemple les BAC, qui elles, sur le terrain, qui reçoivent systématiquement maintenant des ordres pour ne pas intervenir, en particulier ne pas tirer.
Le problème n'est pas le leur, c'est celui de l'État et du manque de soutien dont les meilleurs d'entre eux sont privés.
Faut quand même pas exagérer. Si l'État prend des décisions, le flic de base, il doit quand même obéir. Dire que les flics sont de gauche, peut-être qu'à un certain niveau, c'est vrai.
Non, on voit aux élections professionnelles.
Il y a le flic de base qui essaye de faire son boulot et qui reçoit des instructions.
Les élections professionnelle montre que les syndicats de gauche sont extrêmement majoritaires à l'intérieur de la police.
Oui, le SNOP.
Bon, il suffit par exemple de voir le principal syndicat de la police qui doit être la SGP qui compose l'intégralité du service d'ordre, par exemple actuellement de Ségolène Royal. Bon, même que son patron est c'est lui qui dirige le vaisseau de Ségolène Royal. Il faut pas dire que la police.
Et là c'est la
droit.
CGT.
Voilà.
Quand le préfet de Paris envoie les policiers empêcher la soupe, la distribution de la soupe aux cochons. Jusqu'à présent, ça s'était passé de façon à peu près correcte. La dernière fois, ils ont passé les gens à tabac, ils ont agressé violemment Odile Bonivard et Roger, ils l'ont mis en garde à vue dans une cellule, enfin dans une...
Ils ont renversé les bassines,
ils ont envoyé des coups de pied dans la nourriture et tout. Ça, je dis, alors écoutez, je suis désolé, les mecs qui ont fait ça, ce sont de purs salauds.
Et s'ils se font
triquer par leur ministre pour autre chose, c'est toujours ça qu'ils auront pris pour leur bœuf. C'est absolument dégueulasse de faire ça.
Oui, mais la question, c'est que je crois que...
Il n'y a pas d'ordre possible, là. C'est pas possible que le préfet leur a dit... En tout cas, il y a une loi en France, maintenant, depuis quelques années, qui autorise tout
citoyen
à refuser d'obéir à un ordre qui est contraire à la loi.
C'est le cas à l'armée, même à l'armée depuis des
années. Et donc, ils pouvaient très bien dire, non, ça je suis désolé, on disperse la manifestation, si elle est pacifique, on la disperse pacifiquement, mais il n'est absolument pas question de faire ce que vous nous demandez. Et moi, je suis absolument certain qu'effectivement, le préfet a dû leur dire, allez-y carrément, dispersez-les, et faites-leur comprendre que cette fois-ci, il y en a marre, il faut que cette distribution s'arrête. Mais ils y ont mis un plaisir particulier. Et il y a une photo où on voit un des flics de cette affaire qui a vraiment une gueule de frappe. Et ces gens-là, qu'est-ce que vous voulez ? Si après, ils s'étonnent d'être détestés par la population, eh ben, il faut qu'ils viennent me demander des explications. Moi, je leur en donnerai.
Mais je ne crois pas que ce soit la raison pour laquelle Sarko
les a engueulés.
Non, c'est certainement pas pour ça. Mais tant pis, c'est toujours bon pour leur rhume. Voilà.
Non, il était furieux que la lettre du préfet ait paru dans la presse. Et il s'est défoulé sur les policiers.
Alors, pour ce qui est de la lettre du préfet, elle a été effectivement révélée par Le Monde, elle a été partiellement reproduite, et donc dans le prochain numéro de Feuille Document, il y a l'intégralité de la lettre, et qui est même annotée par un certain nombre de hauts dirigeants du ministère de l'Intérieur.
Nous parlons du préfet Cordet, préfet de Seine-Saint-Denis.
Donc je reproduis la lettre en intégralité.
Ça a apparu dans un dossier qu'il n'avait pas
D'ailleurs, les magistrats ont faim de s'indigner des chiffres donnés par Sarkozy à la télévision, en réalité, ce sont les chiffres du préfet.
Bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir quand même aussi, c'est que le tribunal de Bobigny est quand même connu pour son laxisme.
Mais bon, alors je vais donner carnet. La moitié des magistrats du tribunal de Bobigny sont membres du syndicat.
Voilà.
De
alors il y a
et même dans
font partie du syndicat de la magistrature au tribunal de Bobigny. La présidente du syndicat de la magistrature, la vice-présidente et la trésorière. Voilà. Tout est dit.
Et je redis encore une fois, il faut lire le bouquin de Maud Marin dans lequel elle raconte son expérience à Bobigny, au tribunal de Bobigny, où c'était véritablement un bobinard. Où les petits cahiers de beurre faisaient la loi, littéralement terrorisaient les magistrats.
Mais les magistrats sont, c'est ce que dit Claude Lorne dans son article, les magistrats de Bobigny et les flics vivent dans la trouille. Ouais.
Ma chère Jeanne Smith, à quoi consacrez-vous le numéro de présent ?
De demain. Alors, je vous dis tout de suite que je suis en vacances cette semaine. Et le journal paraît bien évidemment quand même. Et alors, on parle bien évidemment de l'affaire Sébastien Nouchet, dont on s'aperçoit publiquement que ça n'était pas une si grande affaire que ça, bien qu'elle ait donné lieu à une loi anti-homophobe. Alors, Rémi Fontaine, dans notre numéro de demain, revient sur ce qu'il avait déjà dit il y a de longs mois, que cette affaire n'était pas nette et qu'on l'a montée en épingle, cette affaire de Sébastien Nouchet qui accusait la terre entière de l'avoir aspergé et brûlé à je ne sais plus quel degré, il s'en est sorti par miracle. Pour la cause de ses tendances homosexuelles, il s'avère qu'il n'y a rien du tout, il y a eu un non-lieu.
Ce qui est amusant, ça.
Et il était suicidaire, il avait déjà fait 19 ans.
Voilà, et ce qu'il faut savoir en l'affaire, c'est que...
Ce que l'on avait dit dans notre presse.
Depuis très longtemps, on le sait, parce que le magistrat était extrêmement gêné, parce qu'il a fait l'objet de pression pour essayer de poursuivre. Et en fait, je crois que c'est Patrick Goffman qui le disait tout à l'heure. Bon, ça s'apparente à l'affaire du RERD.
Ça fait penser à l'affaire du rabbin auto-poignardé.
Et la mobilisation de Chirac et de son ministre, de son garde des Sceaux, le Père Ben, ça a été, c'est l'affaire du RERD avec la jeune Léonie Leblanc.
Et à chaque fois, ça donne lieu à des législations, et c'est très intéressant, je trouve, parce qu'aux États-Unis, quand on a légalisé l'avortement par voie jurisprudentielle, ça a été aussi fait sur une affaire complètement pipée, où la jeune femme en question n'a même pas avorté.
C'est l'affaire Roe.
Oui,
mais qui depuis d'ailleurs est devenue militante pro-vie.
Ce qui est quand même frappant, c'est que c'est l'insensibilité absolue des Français au ridicule. Parce que ça, c'est une perte quand même de discernement. Parce que normalement, ça devrait provoquer un gigantesque éclat de rire. Le président de la République se mobilise pour une bonne femme soi-disant attaquée pour ses origines juives dans le RER. On découvre qu'elle n'est pas juive, qu'elle n'a jamais été attaquée, etc.
Après, qu'il n'y avait même pas de RER à cette heure-là.
Qu'elle s'est fait une croix gammée sur le ventre avec son propre
couteau. Qu'on poignarde qu'un homme portant un casque intégral interpelle avec un fort accent français en lui disant Inch'Allah, avec un fort accent français, essayez de dire Inch'Allah avec un fort Inch'Allah, qu'on retrouve auto-poignardé après avoir pris soin quand même d'ouvrir sa veste avant de donner le coup de couteau parce que on n'a pas de moyens. Ça provoque une mobilisation.
Avec le l'aïeul de la cuisine. L'homme était venu avec un casque intégral, mais sans arme, apparemment, puisqu'il s'avait pris
Il avait pris l'arme du Moël.
Comme le rabbin devait être en
train. Bon, et l'affaire Nouchet, c'est.
Et l'affaire Nouchet.
C'est la marque du mensonge.
Mais personne ne le voit.
C'est la vague d'affaires qui s'était produite après Carpentras.
Oui.
Avec la petite négresse. Grèce qui avait la, qui avait raté sa coupe afro, c'était
à Avignon.
L'institutrice de Grenoble.
Que son mari avait jeté par la fenêtre et qui était tombée dans une poubelle. Qui avait dit qu'elle avait été agressée par des fascistes. Ça,
des fascistes ayant des foulards FN.
Ce sont des drames classiques de la vie quotidienne. Mais ce qui est, bon, et donc on peut en rire, on peut hausser les épaules, mais ce qui est vraiment incroyable, c'est l'espèce d'aveuglement urgent avec lequel des hommes politiques de très haut niveau, oui, président de la République, se jettent là-dedans.
Serge, nous vivons dans l'ère de l'affect, de l'émotionnel. Ouais, c'est exactement l'affaire Nouché avec la loi anti-homophobe. C'est les mesures prises annoncées par Chirac ce matin en Conseil des ministres pour les anciens combattants indigènes. C'est exactement la même chose. On sort un film, on fait une loi.
On sort une affaire bidon, on fait une loi seulement. L'affect, il est employé contre les Français, mais je pense qu'il n'y a pas d'aveuglement de la part de ces politiciens qui systématiquement s'emploient à écraser, à humilier et à mater leur propre population. Je rappelle le tarif de cette loi. Si vous dites PD dégage un automobiliste, en principe, c'est encore rarement appliqué, mais rassurez-vous, ça sera appliqué de plus en plus et la loi est là pour rester, même si l'affaire s'est évaporée. An de prison, 50 000 euros d'amende.
Si vous tombez juste seulement.
Nous avons cité, je crois vous aussi d'ailleurs dans le Libre Journal, cette affaire absolument invraisemblable des autocollants ne collez pas, des automobilistes ne collez pas, je ne suis pas PD. Où ça provoquait des poursuites en cascade auprès de automobiliste, auprès de l'industriel, du fabricant d'autocollants, enfin, c'est absolument ahurissant.
D'ailleurs, je pense qu'on devrait interdire ces deux lettres sur les plaques automobiles.
Mais on y va, comme avec SS en Corrèze.
Et moi, en tant qu'idiot, je demande qu'on supprime QQ aussi.
Mais pour revenir QQ sur le...
Marine, c'est blessant pour les imbéciles.
Pour revenir sur l'affaire Nouché, mis à part le micro de Radio Courtoisie, je pense pas qu'on en parle dans beaucoup de radios ou dans les journaux, qui ont été d'une modestie extrême, parce que j'ai regardé les articles.
Ils sont rapides, bon, ils en parlent, mais
bon, la plupart n'ont pas dit, pratiquement aucun n'a dit que c'était lié à la loi contre l'homophobie, et alors que, par exemple, dans Libération, il y avait plusieurs pages, des témoignages, etc., c'était, l'article faisait, c'était une brève de 8 lignes.
Oui, mais
donc on voit la disproportion extraordinaire.
Vous avez lu le communiqué de ACT UP en disant ça n'enlève rien à la, ça n'enlève rien à l'urgence de la loi.
Et d'ailleurs
la gravité de l'affaire.
Bon, et d'ailleurs et le site de Tétu indique que des centaines de messages de soutien ont été envoyés à la victime.
Écartons les faits.
Qui est introuvable d'ailleurs. Qui a dit
à la cause, disait Rousseau, absolument.
Voilà. Alors un petit 30 secondes pour dire aux auditeurs qu'ils écoutent Radio Courtois qu'ils ont 100 fois raison et qu'ils écoutent pour 20 minutes encore à peu près Camille Gallic de Rivarol, Jeanne Smith de Présent, Jean-Claude Varane de National Hebdo et Emmanuel Ratier de Faits et Documents sous la houlette de Serge de Bekech du Libre Journal audio et imprimé.
J'allais dire, moi je pue le gasoil, oui, mais non, ça va, c'est bien.
Je voudrais rajouter, Serge, que je suis également rédacteur en chef de Écrite Paris, c'est l'une des plus anciennes revues qui a quand même commencé à paraître en septembre 1944.
Oui, il était temps.
La bonne année.
Et à quoi consacre...
Eh bien, le numéro d'octobre qui va paraître incessamment sous peu, c'est le dossier « Le choc des messianismes à propos de la guerre du Liban, qui dirige réellement l'Amérique. Il y a un article très intéressant pour se méfier des seigneurs, pour mettre en garde les seigneurs qui vont s'installer au Maroc.
Ah oui.
Que le mirage risque de beaucoup les décevoir.
Ça va mal tourner, ça c'est très probable. Ouais. Des messages. Alors on donnera les adresses.
Pour Madame Gallic, ce matin sur Europe 1, dans l'émission de Morandini, un auditeur a suggéré que l'on cite Rivarol dans la revue de presse.
Ouais. Ben, ça nous rajeunira parce qu'il y a très très longtemps que dans une revue de presse d'Europe numéro 1, on n'a pas cité Rivarol, alors que je me souviens historien d'un temps, je l'ai raconté il n'y a pas très longtemps, voilà, exactement, où le... comment s'appelait-il, Arnaud, j'ai oublié son prénom, le rédacteur en chef.
C'est, non, j'allais dire Roger, c'est pas Roger.
Non, Robert. C'est pas...
Le rédacteur en chef de quel journal?
D'Europe 1.
Europe 1, Arnaud. J'appelais Arnaud.
Arnaud. Et il venait, il faisait chercher chaque mardi, à l'époque, Rivarol à l'imprimerie de la rue du Croissant.
Seulement, il y a deux ans, il y a un jeune journaliste de France Inter qui a voulu s'amuser à ça et qui a été vidé le lendemain.
Le pauvre...
Avec présent.
Fabrice Quintrel.
Et je dois vous dire que hier, à ma grande surprise, on m'a téléphoné, mais je ne sais pas qui, un invité de France Culture qui a dit que j'étais sa principale source d'information. Alors j'essaye de retrouver qui c'est, parce que...
Arnaud.
C'est la première fois que je suis cité sur
André Arnaud. Non, André Arnaud était mon cousin, alors c'était pas André.
Ah, c'était pas lui, mais c'est bien André Arnaud, le rédacteur en chef de... qui était rédacteur en chef d'Europe 1.
D'Europe 1. Oui. Puisqu'on parle de presse souffrante, est-ce qu'on peut, sinon observer une minute de silence, du moins verser une larme confraternelle tous ensemble pour Libération, puisque c'est aujourd'hui, donc...
Larme de crocodile.
Voilà. Que le conseil d'administration de cet éminent quotidien devait, je ne sais même pas s'il l'a fait ou non, mais vous allez me l'apprendre, entériner le plan de la dernière chance, je cite les propres paroles de notre bon maître Édouard de Rothschild, enfin leur bon maître, Édouard de Rothschild, puisque bon, ils nous ont vendu un journal, je cite encore, révolutionnaire, indépendant des banques et des patrons, et même fait cracher des milliers de gogos pour cet objectif avant de se vendre à Édouard de Rothschild. Donc aujourd'hui, plan de la dernière chance, une charrette encore de 70 à 80 ou même 90. Alors il y en a compris les licenciés, hein, postes supprimés. Il y en a compris les devants, autour de devinez qui, Florence Aubenas, l'icône, cette jeune femme pourtant vigoureuse puisqu'elle était sortie en pleine forme visiblement de 3 mois de séquestration accroupie dans une cave, et elle a fait jouer ce qu'on appelle la clause de cession. C'est pas la clause de conscience, c'est comparable, puisqu'on peut partir avec de grosses indemnités de son journal quand il est cédé à un autre employeur. Alors Florence Aubenas et trois de ses amis qu'on présente comme la bande à Julie ont fichu le camp, et le brillant éditorialiste Pierre Marcel a rédigé un article tellement injurieux à ce sujet que la direction l'a mis à la poubelle, ce qui fait que tous les amis de Marcel, dont je me flatte d'être, chantent « Marcel, descend la poubelle et reste avec elle !» Puisque le déficit de Libé, c'est Marcel.
Peut-être que pour sauver Libé, on aurait pu demander au ravisseur de Madame Aubena un petit chouïa de la rançon qu'ils avaient... on avait parlé de plusieurs centaines de 600 millions.
Moi, ce qui retient beaucoup mon attention dans cette histoire... Et je voudrais que les auditeurs soient attentifs. Si vous n'êtes plus fâchés par tout ce que j'ai dit sur Villiers, écoutez ce que je vais vous dire maintenant. On vient d'apprendre donc combien, 70, 90 journalistes, enfin collaborateurs.
La rumeur c'était 70, et maintenant on parle du tiers du personnel.
De Libération.
Non, il y a 70 journalistes et sans doute au total 110 à 120 personnes.
Alors voilà, une centaine de personnes qui.
Journalistes,
écoutez-moi. Rendez-vous compte.
Non.
Vous imaginez un journal qui fonctionne. Bon, il se vend mal, mais il fonctionne. Du jour au lendemain, pour essayer de sauver les meubles, il vire 100 personnes. Et en disant à ses lecteurs, ne vous inquiétez pas, au fond, ça ne va rien changer, ce sera toujours le même journal. C'est-à-dire que jusqu'à ce moment-là, il y avait 100 types qui étaient payés à rien foutre.
Mais bien sûr.
Qui peut se permettre de payer 100 personnes à rien foutre dans un journal, quand d'autres journaux ne les payent pas à travailler? Je sais de quoi je parle. Attendez, je termine. Qui peut se permettre de faire ça et avec quel argent? C'est évident que... Ces journaux, bon, je parle même pas de l'argent Rothschild, mais cette presse n'est pas libre.
Des 19 aides directes et indirectes de l'État, rien que l'État. Et ça ne comprend pas la publicité institutionnelle qui tombe à pleine page.
Quand vous voyez, par exemple, dans l'Humanité, publicité, si vous voulez vous chauffer au gaz, voyez Gaz de France. Bon, d'accord, c'est intéressant parce que quelle est la concurrence?
Je préfère Gazprom, monsieur Beckett.
Pour prendre le train, une seule adresse, la SNCF. Merci, monsieur, c'est gentil de me le rappeler. Pendant un moment, j'avais envie de faire appel au chemin de fer allemand. Donc, on sait bien que ces publicités servent uniquement à filer du fric à des gens qui, naturellement, ne touchent pas cet argent sans contrepartie. Donc, ces journaux vivent de rapines, de prébendes, de pots de vin, de fric volé aux contribuables et qu'on leur donne sous la forme d'aide, de publicités qui ne servent absolument à rien. Et moyennant quoi, ils payent des gens qui ne servent à rien non plus, puisqu'on peut les virer du jour au lendemain sans que le journal cesse de paraître. Et c'est de ces journaux-là que vous attendez une information, chers auditeurs.
Contre-exemple d'un mot, je me flatte d'avoir appartenu du début à la fin à la rédaction du Français, du quotidien Le Français, du quotidien patriotique Le Français en 1994. Nous étions 10, tout compris, c'est-à-dire la rédaction et l'administration. Alors, je ne dis pas que c'était un chef-d'œuvre tous les jours, nous n'avions que 16 pages, mais c'était un quotidien qui se tenait. D'ailleurs, Présence en est inquiétée à l'époque. Et nous étions 10. Ces gens-là, ils sont 285 encore ce matin à Libé.
Combien de vous
Mathieu, vous voulez dire
oui, à présent, une rédaction permanente d'à peu près 9 personnes, mais qui tourne. Hein, tout le monde n'est pas là tous les jours.
Oui, mais bien sûr.
Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a déjà eu un certain nombre de départs, parce qu'il y a eu des départs avant l'été, enfin au moment où Rothschild avait été pris, il y avait toutes sortes de gens qui ont fait jouer assez tôt la clause de cession. Et enfin, je suis pas tout à fait d'accord avec vous quand vous dites qu'on s'en rend pas compte. Libération, bon, qui a son public, etc., mais avait l'habitude, par exemple, d'envoyer quand même pas mal de gens sur le terrain à l'international. Et la couverture, par exemple, cet été des événements du Liban était catastrophique dans Libération, parce qu'ils avaient quasiment aucun correspondant sur place, pas d'envoyés spéciaux, alors que celle du Figaro, qui avait plus de moyens, était beaucoup plus informative. Et ce journal baisse petit à petit de niveau.
Oui, mais
on en apprend de moins en moins.
C'est sûr, mais
qu'il y avait quand même un côté grandes enquêtes, etc., qui n'était pas toujours désagréable.
Le système qui consiste à dire le journal ne se vend pas, donc on va virer des gens pour faire un journal encore plus mauvais, comme ça il se vendra mieux, ça me paraît un petit peu paradoxal.
Non, mais c'est comme, vous savez, il y a des journaux, quand ils ne se vendent plus, par exemple, ils changent de jour, des hebdomadaires, ils changent de jour de parution, vous savez. Oui. Ça, c'est le truc. Et alors on se rend compte que VSD se vend le mercredi maintenant. Oui. Bon, ils changent de format.
D'accord,
on connaît tous ces techniques.
D'accord, mais il faudrait quand même nous expliquer pourquoi Ouest France progresse, pourquoi Le Parisien progresse, pourquoi L'Équipe progresse. S'il y a une espèce de fatalité à la décadence de la presse écrite.
On pourrait peut-être demander l'avis de Présent quand même quant aux aides.
Aux aides, le bien Présent n'a pas d'aide de l'État, outre si ce n'est l'aide qui est donnée à tous les quotidiens. Sans exception, sur le plan postal. Et donc, on a un tarif postal qui n'est pas celui de la presse aidée, mais qui est celui de la presse générale. Mais sinon.
Non, mais on peut rappeler quand même le procès.
Présent ne touche aucune aide. Oui. Normalement, en tant que journal sans ressources publicitaires ou quasi, on aurait droit à 20%, mais on a quasiment rien. Nous avons droit à une aide à la presse quotidienne nationale d'information générale et politique. Elle nous est refusée pour des motifs divers. Alors, ça a été parce que nous ne paraissions que 5 jours par semaine. Ce motif a été écarté à la suite d'une procédure. Donc, nous avons touché l'aide encore pendant quelques années après cela. Et maintenant, on nous la refuse parce que nous ne sommes pas dans la fourchette moyenne des prix, ce que nous contestons par des motifs tout à fait légaux.
Il y a eu l'affaire du jeudi de l'Ascension.
Oui, mais ça,
c'était extraordinaire.
C'est une vieille histoire.
On peut le dire.
On peut le dire.
Tout a été fait pour vous supprimer.
Pour nous supprimer pour divers motifs. Alors là, cette aide nous est refusée parce que nous sommes trop chers en kiosque, mais notre prix moyen est parfaitement en concordance avec le décret d'attribution d'aide. Nous contestons cela devant les tribunaux et en juillet, nous avons eu la surprise de nous voir infliger une amende de 1 500 euros parce que nous avions fait une procédure pour obtenir notre droit. Alors, procédure abusive, 1 500 euros, ça nous a fait beaucoup rire, je dois dire. Oui. Nous en avons beaucoup parlé.
Vous avez vraiment beaucoup de sens de l'humour.
Et oui, mais la vérité, c'est que ça nous rend finalement plus forts parce que les gens sont à juste titre indignés et les gens contribuent à notre souscription. Et nous restons et demeurons entièrement libres par rapport à l'État.
Voilà, et surtout, ils comprennent que c'est une presse qui est faible, qui a des défauts, mais qu'elle est indépendante, que nous, on n'a aucun fil à la patte.
Voilà.
On voudrait bien manger du caviar et mentir du matin au soir, nous aussi, mais on ne fait pas partie de la bande.
Cela dit, cette aide nous est légalement due et nous continuerons de nous battre pour l'avoir, parce qu'il n'y a absolument pas de raison que le quotidien, que l'Humanité ou la Croix ou encore Mon Quotidien, qui est un petit quotidien pour enfants, touche cette aide et pas présent. Voilà.
Alors, ça n'a rien à voir, je fais une parenthèse, parce que c'est un auditeur du Monde qui nous envoie un fax qui vraiment mérite le voyage. La directrice du Deutsche Oper, Kristen Hams, a retiré de l'affiche de novembre l'opéra Idomeneo de Mozart, après que la police lui avertit d'un risque inquantifiable de représailles par des islamistes. Le Conseil de l'Islam, une des associations représentant les 3,2 millions de musulmans d'Allemagne, a félicité le Deutsche Oper.
Cela dit, Serge de Beketch, moi, si j'avais été catholique en Allemagne, j'aurais demandé l'interdiction aussi. Oui, parce que la mise en scène est une mise en scène ultra progressiste qui met en scène Jésus-Christ, qui met en scène...
C'était
aux catholiques de bouger.
Je veux dire quelque chose.
La différence, Jeanne, c'est que si vous aviez été catholique et que vous aviez protesté, la directrice du Stadtoper serait fichue comme...
Tout à fait d'accord, Camille. Ce que j'essayais de dire, c'est que là, c'était aussi aux catholiques de protester.
Franchement, plus je vieillis, plus j'en viens à me dire que on est entré dans un processus de censure, de revendication, de protestation, qui devient délirant. Il faut arrêter.
Oui, mais c'est toujours dans le même sens.
Lisez
donc le blog.
Il faut bien qu'il y en ait qui arrête. Et je dirais que à l'opéra, bon, c'est pas la même chose à la télévision. La télévision, n'importe qui à la télé chez soi, il pousse le bouton, il tombe sur un truc. Écoutez, vous regardez quand vous avez le câble, comme moi j'ai, il y a des moments où le soir on zappe parce qu'on cherche un film pour se détendre. Vous avez en clair, mais des choses qu'on n'aurait pas montrées dans des caves blindées il y a 20 ans. Alors ça, c'est intolérable. Et quand j'ai écrit à Nous pour leur dire, mais au moins, mettez un filtre, c'est facile de. Ils répondent même pas. Ça, c'est scandaleux. Mais. À l'opéra, des cinglés montent un spectacle où ils vont montrer Jésus-Christ tout nu.
Comme d'habitude, ça commence d'être un peu usé.
N'y vont que les gens qui ont envie de voir ça. Je dirais que nous, à la limite, bon, on n'y va pas, puis c'est tout.
Oui, mais une chose quand même, Serge de Beketch, on vit sous la coupe d'une contre-culture qui nous détruit.
Les gens qui vont voir ça, ils sont déjà flingués. Moi, c'est pour ça que je suis partisan.
Mais la plupart quittent la salle, on a rien. Ça plusieurs fois.
C'est pour ça que je suis partisan de la distribution gratuite de cam aux drogués, parce que il faut ralentir abréger leur calvaire. Et ils veulent se tuer. Bah alors d'accord, alors on va vous en donner gratuitement. Au moins ça tuera le commerce qui crée des clients.
C'est un peu ce qu'avaient fait les Suisses à Zurich.
Ah non parce que là c'était différent. Non. Moi je dis qu'il faut construire des dispensaires. Les gars viennent, ils se font faire leur shoot. Tu veux un shoot? Tu veux combien de grammes? 12. Allez hop, tac. On appelle directement
les pompes funèbres.
Les pompes funèbres et à dégager. Tout ça accompagné de la peine de mort pour les trafiquants. Et de toute façon, les trafiquants n'ayant plus aucun intérêt.
De clients.
Ils n'ayant plus de clients et n'ayant plus d'intérêt parce que ça ne rapporte plus rien étant que c'est gratuit.
Ils se reconvertiront dans l'imagerie pieuse.
Voilà, je ne sais pas ce qu'ils vont. Mais
un vrai programme pour l'Union patriote.
Je pourrais envier
les.
Peut-être le port du béret basque obligatoire.
Sur les 2 ou 3 millions de chômeurs, il y en a qui vont trouver du boulot, c'est tous ceux qui savent se servir d'une guillotine.
Il nous reste 3 minutes, ouais. Serge.
C'est vrai ?
Oui.
Bon, alors on va donc.
Alors on va faire la pub de Lire sous les pommiers ?
Non, il reste 8 minutes. C'est vraiment Goffman.
J'essaie de vous affoler, mais ça sert à rien.
Ouais. Non, je sais que vous êtes.
À propos de pommiers.
Il s'est infiltré dans la droite nationale, ce trotskiste, pour nous stresser, finalement.
Ça lui est souvent reproché, hein, vous
tous. Oui, il m'a dit qu'un jour il écrirait 20 ans chez les fachos.
Ah ben, j'en ai des notes. À propos de pommiers, vous disiez.
À propos de pommiers, on nous signale qu'il y aura. Une messe à 11h30 sous le pommier, à peine de pied, donc célébrée par Monsieur Lavelle, né Héry.
Héry de l'Institut du Bon Pasteur.
Une messe, parce que ce sera dimanche prochain, 1er octobre.
Voilà.
Non, mais la messe, c'est pas seulement le dimanche, Goffman.
Ah bon?
C'est pas converti à porter la bannière.
J'en faisais un prétexte pour rappeler que c'était dimanche prochain à nos auditeurs du Havre, de Caen, de Cherbourg et autres lieux découverts à marée haute.
Merci. Donc maintenant nous allons passer au
aux signatures, si j'ose dire. Alors, Camille, donc, dites-nous où on peut se procurer, à quelles conditions, Rivarol et Cri de Paris, s'il vous plaît.
En principe, on peut le trouver dans les kiosques, Rivarol. Et si on ne le trouve pas, on peut nous téléphoner pour nous indiquer le kiosque le plus proche. C'est donc au 01 53 34 97 97, où l'on peut également nous demander des spécimens gratuits pour notre revue Écrite Paris et pour le journal, pour Rivarol. Nous ferons un plaisir de les envoyer, et également par internet rivarol.com.
Très bien.
Présent. Alors présent, vous le trouvez en kiosque, mais pas dans tous les kiosques, mais vous pouvez demander que votre kiosque soit servi. Vous pouvez téléphoner au journal au 01 42 97 51 30. Et là, vous vous recommandez de moi et vous avez 50% sur l'abonnement de 6 mois. Ça vaut la peine. Ou bien vous vous branchez
incroyable,
sur 3.
Un pouvoir incroyable.
Incroyable, mais limité. Parce
que 10% moi pour les abonnements.
c'est tout à fait limité à un certain nombre d'abonnements cette année, mais c'est grâce à un bienfaiteur que nous pouvons faire cette proposition intéressante. Sinon, vous vous branchez sur www.présent.fr et là, aussi, vous avez un demi-tarif si vous êtes un nouvel abonné, 25 euros au lieu de 50 pour les 3 premiers mois de visionnage gratuit du journal tous les jours à 13h. Vous avez le journal du lendemain, la veille.
C'est bien. Ça.
Voilà.
Monsieur Varane, comment peut-on lire ce...
Oui, National Hebdo, vous pouvez le trouver dans les kiosques le jeudi, à peu près dans tous les kiosques où effectivement, comme notre confrère présent, vous pouvez, si le marchand ne vous le donne pas, le réclamer. Sans ça, vous pouvez nous adresser à Saint-Cloud, 4 rue Vauguyon, 92 210, le téléphone 01 41 12 04 40. Je voudrais faire une autre annonce, que les BBR cette année du Front National auront lieu au Bourget sous forme d'une convention présidentielle qui se tiendra le 10, le 11 et le 12 novembre au Bourget. Si...
Tu peux pas m'avoir un prix pour les stands parce que des gens...
Je ferai en sorte, cher Serge, de retenir ce que tu demandes. D'accord.
C'est ma femme.
C'est qu'il y a d'autres choses, c'est que si vous passez tout de suite vos commandes auprès de la SNCF, si vous vos billets, vous pourrez obtenir 50% de réduction. Voilà, National Hebdo vous souhaite une bonne soirée. Merci.
Merci Jean-Yves. Oui, il est bien. Hein. Très moderne marketing man. Emmanuel Ratier, Faits et Documents.
Oui, donc Faits et Documents, donc je vais pas donner...
L'indispensable Faits et Documents.
Donc j'enverrai un exemplaire à toute personne qui m'écrira par Internet. Donc comme tout le monde, vous mettez Faits et Documents dans un moteur de recherche et vous tombez sur mon site. Donc ça me coûtera moins cher, je vous l'enverrai en PDF. Et si vous m'écrivez, vous pouvez écrire à ma boîte postale, donc Faits et Documents, BP 254... 75 424 Paris Sedex 09. Et si vous voulez acheter un numéro, vous pouvez le trouver dans quelques librairies parisiennes, et notamment notre librairie associée, qui est la librairie Facta, qui est 4 rue de Clichy, Paris 9e.
À visiter. Merci Emmanuel. Bon,
le libre journal, il sent pas le gaz.
Oui, si, il sent le gaz. On a fait 10 minutes de pub à la coupure. On va pas recommencer.
Mais non, francecourtoise.info, déjà, on n'est pas un journal paumé. On n'est pas dans les kiosques, mais on n'a pas non plus d'ailleurs de site. Ce sont des amis, des admirateurs du libre journal qui entretiennent ce site, francecourtoise.info, où on peut consulter une grande partie de la collection. Donc, on est, à l'exception de quelques mauvaises librairies comme France Livre qui se signalait tout à l'heure, on est uniquement sur abonnement. Donc 110 euros, 4 places France List. Alors 110 euros à l'ordre de SDB, 4 places France List, 75 010, Paris.
Je voudrais juste signaler également le site des Saint-Charles.
Ah oui, alors ça s'écrit comment?
Des Saint-Charles
en un seul mot.
En un seul mot, on va sur
point,
le moteur de recherche.
Ah,
et c'est une merveille, il y a une histoire de France qui est très belle.
Bon, les annonces, vite.
Vite.
Et elle sera à la fête sous les pommiers. Char.
Très bien, bonne nouvelle.
Donc samedi prochain, 30 septembre, de 14h30 à 18h, Rémi Fontaine dédicacera le livre noir des évêques de France à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, Paris 5e.
Toujours eux.
Et puis l'abbé de Tannouarn donnera une conférence au Centre Saint-Paul, 12 rue Saint-Joseph, Paris 2e, le mardi 3 octobre à 20h, sur l'objet « Dieu dans la rentrée littéraire ». Et puis, le docteur Merlin, se produira, exactement ce que je voulais dire, mais il y avait deux mots qui venaient en même temps, c'est large. Docteur Merlin, jeudi 28 septembre, Jazz Manouche, mardi 3 octobre,
Cœur-Mouche-Bois
Saint-Denis, mercredi 4 octobre. Vous pouvez réserver donc à la mère agitée au 01 43 35 56 64, 30€, 20 compris, cuisine de qualité, 21 rue Campagne Première, Paris 14e, métro Raspail.
Ça fait des progrès énormes, la Valoche. Non, mais absolument.
Oui, mais personne ne dit le contraire, Serge. Il y en a qui font des grimaces, mais les auditeurs ne les voient pas.
Qui fait des grimaces?
Mais personne.
Allez-y,
il reste encore quelque chose?
Si je peux, je
c'est
en
tout.
Ai encore. Bon. Alors, dans longtemps, samedi 30 septembre. Enfin,
réservez votre dimanche 22 octobre à Villepreux pour la journée de résistance au Tchernobyl médiatique à l'initiative de Bernard Anthony. Le Libre Journal y sera. Et puis je pense d'ailleurs tous nos journaux y seront. Bonne semaine, merci de nous avoir écoutés. Bonne semaine, que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8. Pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.com. Vous venez d'entendre le Libre Journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 27 septembre 2006 de 18h à 21h, en différé jeudi 28 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de...